dans notre pays. En tout cas, mesdames, messieurs, je tiens également à vous remercier pour votre assiduité et pour l'intérêt que vous avez bien voulu marquer à cette proposition, à cette offre de programmation de l'établissement que je dirige. Je souhaite la bienvenue aux orateurs de ce matin. Mesdames, messieurs, nous attendons beaucoup de l'exigence et de l'acuité de votre réflexion, de votre pensée, et donc je vais rejoindre mes concitoyens dans la salle pour vous entendre.
Merci, merci. Oui. Bien, merci. Merci Jean-Jacques de ces mots d'introduction, de nous avoir accueillis et d'avoir, je dirais, eu l'idée de ces entretiens qu'ensuite nous avons élaborés. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est sous la forme d'un débat, mais avec auparavant, de la part de chacun des participants, un énoncé de la manière dont il voit la problématique de la démocratie aujourd'hui, dans les conditions que nous avons débattues pendant les deux premiers jours. Nous attendons encore M. Jean-François Copé, mais nous ferons comme hier, c'est-à-dire, vous avez vu la difficulté qu'il y a à arriver ici, c'est un peu un labyrinthe et assez complexe, avec tous les flux de personnes qui se déplacent, donc il viendra en cours de route, nous savons qu'il est en route, et donc nous allons tout de suite commencer par ce tour de table, de positions qui sont des positions, comme vous verrez, diverses. Donc je vais commencer tout bêtement par l'ordre alphabétique, parce que je crois que tout autre ordre aurait pu être surinterprété et à tort. Donc l'ordre alphabétique, bon, c'est celui qui fait que je suis toujours au milieu, moi. On aurait pu prendre l'ordre inverse, mais ce n'est pas la peine de compliquer les choses. Ah, voici M. Copé. Donc nous le saluons. Bienvenue, merci d'être avec nous. Prenez place. Donc je vais commencer le tour de table en vous donnant la parole pour commencer à Monique Cantos-Sperber, née en 1954. Elle est directrice de l'École normale supérieure, philosophe. Directrice de recherche au CNRS et directrice de l'École normale supérieure depuis je ne sais plus combien d'années, mais 4 ans au moins, quelque chose comme ça, hein, voilà, c'est ça. Dans sa grande longue bibliographie, elle est spécialiste de philosophie antique au départ et puis de théorie morale, mais je signale un certain nombre de livres qui se portent plus directement sur les questions qui nous concernent. Les règles de la liberté en 2003, faut-il sauver le libéralisme en collaboration 2006, et c'est le libéralisme et la gauche 2008. Donc je lui donne tout de suite la parole, ensuite à chaque fois je présenterai l'intervenant. À vous Monique.
Merci cher président, cher Yves, merci pour m'avoir invité à cette réunion. Quel honneur de pouvoir prendre la parole sur la scène de l'Opéra Royal de Versailles. Je ne pensais pas qu'une telle faveur m'incomberait un jour. Alors, j'en viens au sujet dont vous avez débattu pendant ces derniers jours, la démocratie. De nombreux travaux ont décrit, ont salué le renouveau des formes d'expression démocratique et remarqué que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation inédite, puisque le peuple invente les formes de sa souveraineté. Il est vrai que les mutations majeures survenues dans nos sociétés au cours des 30 dernières années y invitent. Communication considérablement facilitée, puissance de l'Internet, formation de groupes, réactivité de la société, capacité de pression. Cela crée pour les gouvernements la nécessité accrue de tenir compte de l'opinion et de rechercher la validation du peuple, son approbation. D'où l'émergence de pratiques démocratiques riches, polymorphes, capables de convaincre les citoyens de la réalité de leur participation politique, de la réalité de leur activité de citoyen. Et ce que j'ai su des exposés qui ont été prononcés au cours de ce colloque montre que beaucoup se sont félicités de ces pratiques nouvelles de la démocratie, aussi bien dans l'ordre de la description, c'est-à-dire dans l'ordre de ce qui est, que dans l'ordre de la norme, ce qu'il doit être, il y a approfondissement et enrichissement. Et puisqu'on nous invite à poser des questions sur la démocratie, je jetterai, ne m'en voyez pas, un regard plus désabusé, sinon inquiet, sur ces formes nouvelles de la pratique démocratique. Je vous dirai pourquoi il me semble que la description, souvent autosatisfaite, de l'invention démocratique d'aujourd'hui est une description partielle et que sur plusieurs points essentiels, les nouvelles pratiques démocratiques n'inventent pas beaucoup, n'enrichissent pas vraiment, ne diversifient pas réellement, mais ramènent parfois à des dangers, voire des pathologies connues et redoutées depuis fort longtemps et qui reviennent subrepticement sous une couverture d'innocence euphorique et de nouveautés spontanéistes. Et je vous dirais aussi que l'acceptation un peu béate des nouvelles pratiques démocratiques ne nous met guère dans une situation favorable pour réfléchir à ce qui devrait être la pratique démocratique dans une époque de communication ultra rapide, de pouvoir immense des médias, bref, notre époque. La description d'abord. Les citoyens d'aujourd'hui interviennent, commentent, interpellent, bloguent, se rassemblent, manifestent, font pression. Il y a une véritable manifestation collective de l'intervention à tous égards, mais il est difficile de savoir si cette démocratie aux mille voix, cette profusion excessive d'avis, se traduit véritablement par une influence accrue du peuple sur les décisions politiques. Quelle portée cette présence nouvelle de la voix du peuple par ces multiples canaux que je viens d'évoquer a-t-elle sur la délibération politique? Quelles modalités différentes sont reconnues à ces formes d'expression? Ce sont des questions qui restent totalement ouvertes. Démosthène, donc le grand orateur athénien, remarquait déjà que le problème à Athènes, c'est que tout le monde parle et que personne n'écoute. John Stuart Mill, plus de 2000 ans après, soulignait dans son remarquable livre sur la liberté, On Liberty, qu'il n'était pas sûr que plus de capacité d'expression puisse se traduire en capacité d'intervention véritable. Ce sont des questions anciennes. Est-ce que notre époque permet d'y répondre plus précisément? C'est la question que je voudrais aborder. Et je vais l'aborder sous un angle un peu particulier qui, je crois, n'a pas été évoqué jusqu'à présent dans ces entretiens, qui me paraît intéressant en soi et surtout correspondre à un âge totalement nouveau de la démocratie, pour le coup. C'est la diffusion des connaissances dans le peuple. C'est le fait qu'aujourd'hui, tout citoyen peut se procurer très facilement des informations de toutes sortes, les échanger, donner son avis et être même, d'une certaine façon, autorisé à donner son avis. Si vous vous reportez à ne serait-ce que 30 ou 40 ans, il va de soi qu'une telle capacité de traiter l'information et de se poser en tant qu'un sujet parmi d'autres chargé d'élaborer la vérité ou les connaissances n'existait pas. C'est donc un trait tout à fait nouveau de notre démocratie et après tout, partons de cela. Par ailleurs, c'est une question intéressante parce que, vous le savez sans doute, au moment où le régime démocratique s'est établi en France avec ses trois grandes étapes que sont la révolution de 89, celle de 1830 et celle de 1848, le régime représentatif a été adopté comme un régime où le citoyen n'avait pas véritablement la possibilité de délibérer et décider. Cette possibilité était transférée aux représentants. La démocratie était réelle puisque tous les citoyens avaient une égale capacité de vouloir. Mais la capacité de réfléchir, délibérer, etc., était transférée aux représentants. Et dès l'été 89, dans les débats qui ont été consacrés à la notion de représentation politique, l'idée du mandat impératif pour les représentants, où ces derniers devaient voter comme le souhaitait leur mandant, fut rejetée au profit de l'idée d'une délégation des pouvoirs. Ce fait est très important, car il a autorisé, d'une certaine façon, les représentants à délibérer et à décider au nom de leurs commettants, au nom du peuple, au lieu de les obliger à transmettre leur point de vue sous peine de révocation. Et cette délégation est revenue, de fait, à priver le peuple, d'une certaine façon, de la capacité de délibérer et de décider, dans la mesure où c'est dans l'enceinte de l'Assemblée des représentants que se tient pour l'essentiel la délibération politique et la décision politique. Il va de soi que dans la situation d'aujourd'hui, où de manière inédite, nos concitoyens sont en possession de très nombreuses informations, de très nombreux éléments de délibération, la tentation est très grande pour eux de constituer une sorte de contre-pouvoir délibératif, de contre-pouvoir d'information et de raisonnement qui, d'une certaine façon, est inévitablement est un peu concurrent de celui qui revenait jusqu'à présent exclusivement aux représentants politiques. Alors c'est une évolution très intéressante et qui, d'une certaine façon, est complètement en phase avec les recherches, certaines des recherches menées aujourd'hui au sein de la théorie politique sur l'évolution de la démocratie. Vous savez que les théoriciens aiment beaucoup utiliser des modèles. On a donc parlé de démocratie délibérative, de démocratie de la négociation, de démocratie du consensus, et maintenant de la démocratie de la sagesse collective. Bien, qu'est-ce que cela veut dire ? Simplement que le peuple, n'importe quel citoyen, quel que soit leur niveau d'information, quel que soit leur niveau de compétence, a la possibilité de raisonner sur un sujet et de parvenir à une conclusion qui est d'une certaine façon aussi fondée en vérité par le seul fait qu'elle a été réfléchie et prise par une assemblée avec suffisamment de diversité que ne le ferait une réunion d'experts. C'est une idée qui est extrêmement intéressante, je ne vais pas en reprendre la généalogie philosophique, mais elle nous conduit à estimer que d'une certaine façon, si tel était le cas, la démocratie ne serait pas simplement justifiée pour des raisons normatives. Il va de soi que la souveraineté repose dans le peuple, mais également pour des raisons d'efficacité, pour des raisons instrumentales. La démocratie est plus efficace en termes de capacité d'accéder aux meilleures décisions que tous les autres modes de régime. Or, vous savez que cette question et cette opposition que beaucoup ont cru voir entre la légitimité du régime démocratique d'un côté et son incapacité d'arriver rapidement, efficacement et de façon sûre à la vérité est une question qui hante la philosophie politique depuis Platon. Avons-nous aujourd'hui, en observant les pratiques démocratiques qui sont les nôtres, la possibilité de résoudre ce dilemme entre efficacité et légitimité? Après tout, essayons de répondre à cette question. Non, mais impossible d'aller trop dans les détails à présent. Mais je voudrais simplement insister sur le fait que j'ai les plus grands doutes à cet égard, pour une raison simple. C'est que, regardons comment fonctionne aujourd'hui l'expertise scientifique ou le discours scientifique dans nos sociétés. C'est un discours parmi les autres, d'une certaine façon. Et il a, pour s'imposer, pas davantage de titres que les autres. Il y a une sorte de concurrence des discours qui fait qu'aucun privilège ne revient au discours des savants ou au discours des experts. Alors, on peut considérer que c'est une excellente chose et que d'une certaine façon, c'est un acquis démocratique. Nous avons tous en tête les systèmes politiques totalement fermés où les lettrés, les érudits, s'étaient arrogés un pouvoir auquel nul n'avait accès. On sait aussi que très souvent, le discours scientifique a servi à cautionner, justifier et habiller des habits de toutes sortes. Mais faisons-nous aujourd'hui le meilleur usage de sa nouvelle acquis démocratique? Je doute de cela. Il est arrivé très souvent dans des questions de santé publique récemment, et on pourrait évoquer la question des antennes mobiles, qu'une conclusion scientifique qui excluait toute relation possible de causalité entre un phénomène et un ressenti, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui des citoyens, n'a absolument pas été traduite dans un système de normes. C'est-à-dire qu'on a fait comme s'il y avait, pour satisfaire à la demande de ceux qui se plaignaient, comme s'il y avait un effet causal, que pourtant toutes les expertises scientifiques, dont toutes les expertises scientifiques niaient l'existence. Il y a là un véritable problème. La diffusion du savoir au sein...
Je peux vous demander d'abréger maintenant.
D'une société,
plus de 11 minutes. Hein.
La capacité pour tous de se prononcer pour la vérité est une très bonne chose, mais réfléchissons aux meilleures règles de cet usage. Donc, conclusion. J'espère, pour passer aux recommandations plus normatives, que nous pourrons élaborer une pratique démocratique nouvelle qui reconnaîtra au lieu de savoir une force suffisante et ne les mettront pas en concurrence tout simplement avec les autres discours ou les autres intérêts particuliers, et aussi que les politiques, le monde politique saura résister à la pression et ne pas considérer qu'il y a lieu, chaque fois qu'une émotion collective est ressentie, dont il est absolument nécessaire que la politique prenne acte, que chaque fois qu'une émotion est ressentie, de ne pas la transformer en norme de vérité ou en norme d'action. Car il y aurait là quelque chose qui brouillerait définitivement toute possibilité de repère dans notre démocratie. Il est absolument indispensable, et c'est, je crois, la tâche de ceux qui nous gouvernent, de trouver des moyens de compassion, de prise en compte, qui ne se traduisent pas par des résolutions qui influencent la vérité des choses ou qui introduisent des normes ou des lois qui ne sont faites que pour répondre à ces émotions. Alors, et je terminerai par cela, par cette très belle citation du cours de politique constitutionnelle de Benjamin Constant, je cite de mémoire. La loi n'est pas à la disposition du législateur, ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire spontanément. Le législateur est à l'ordre social ce que le physicien est à la nature. Newton lui-même n'a jamais imaginé qu'il était le créateur de la loi de gravitation.
Voilà, merci beaucoup. Eh bien, nous passons tout de suite à la parole du politique avec Jean-François Copé, né en 1964, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, ancien élève de l'ENA, plusieurs fois ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, ministre délégué au budget de nouveau, et puis, comme je vous ai dit, depuis 2007, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Deux livres dont le titre dont je n'ai lu que le premier, mais dans les titres des deux m'a intéressé et arrêté, je pense comme vous. Promis, j'arrête la langue de bois. 2006, que j'ai lu, et puis Un député, ça compte énormément, 2009. Voilà. À vous, Jean-François.
Merci beaucoup. Je voulais, à mon tour, vous dire que j'étais très, très heureux de me trouver ici pour évoquer ce sujet magnifique de la démocratie confrontée à un certain nombre de nouveaux défis, notamment celui que rappelait tout à l'heure Madame Cantoche-Perbert, c'est-à-dire la question du lien avec ces nouvelles technologies, en clair Internet, hein, parce qu'on emploie le mot nouvelle technologie de l'information et de la communication. En fait, voilà, le mot qui est sur toutes les lèvres, c'est celui d'Internet, et pour nous, responsables politiques, est un nouveau défi, un véritable dilemme. Pour vous dire les choses, et en réfléchissant un peu à notre rencontre d'aujourd'hui, je me disais, il y a deux manières de parler de ce sujet. Il y a la première, un peu angélique, qui serait celle pour un homme politique de ma génération, très attentif à l'histoire de son pays, mais aussi très soucieux de son avenir. Je parle de celui du pays. Peut se dire, fais attention à ce que tu racontes. Si tu commences à dire du mal d'Internet, tu vas forcément te mettre à mal toute une partie de la population, réputée la plus jeune, la plus accro aux nouvelles technologies, qui ne comprendrait pas que tu puisses avoir un discours agressif sur ce sujet. Et puis en même temps, c'est vrai que j'ai du mal à être agressif à l'égard d'Internet, parce que même si je suis plus, pour reprendre la formule de l'émission, un enfant de la télé qu'un enfant d'Internet, puisque j'ai grandi dans les années 70-80, il n'en reste pas moins que dès que j'ai commencé à m'investir un peu, avec sans doute un peu de retard par rapport aux plus jeunes générations, dans ce monde, j'ai été, comme tout le monde, fasciné. Et ça m'a aidé un peu à imaginer ce que pouvait être, pour les générations de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, l'arrivée de chaque nouveau média. La radio, en ce surlendemain de 18 juin, on ne peut pas ne pas y faire une brève allusion, la télévision, et puis aujourd'hui Internet, c'est-à-dire à chaque fois ce même processus. D'un côté, première étape, c'est la découverte. La seconde étape, c'est avec la partie ludique, divertissement au sens pascalien du terme, le sentiment de se passionner tellement pour ce nouvel outil médiatique qu'on en fait un élément constitutif de sa vie, et puis ça devient in fine un élément tout court de sa vie, un véritable mode de vie, un moyen de vie, si je peux prendre la formule britannique Way of Living. C'est ça le sujet aujourd'hui. Alors pour l'homme politique ou la femme politique confrontée à cet élément de défi permanent qui est de coller à la société française pour en comprendre la diversité, les subtilités, les évolutions permanentes, ce sujet-là est majeur. Parce que bien sûr, Internet touche la totalité de la sphère de nos vies, publique, privée, quotidienne, dans la durée, tout est accessible par Internet. Et c'est vrai qu'à côté de ça, nos vieux cours de droit constitutionnel, nous rappelant que le grand rendez-vous de la démocratie, c'est le rendez-vous de l'isoloir tous les 5 ans, qui par définition n'est en rien une découverte, n'est en rien un élément ludique, ni de divertissement, n'a rien à voir avec cela. Et s'accrocher simplement en disant « Attendez, stop, il y a un rendez-vous de démocratie, c'est l'isoloir, point. Le reste, c'est les représentants qui font leur travail de responsable politique, on le voit bien, ne peut plus suffire. » Si je vous dis tout cela, c'est parce que ce dilemme, qui est un des grands sujets de la période présente et des 10 années qui viennent, doit maintenant être abordé avec maturité. Je pense qu'on ne peut plus simplement avoir le sourire jusqu'aux oreilles en expliquant que tout ça est magnifique. On ne peut pas non plus aller dans ce réflexe traditionnel qu'on a, il faut bien le dire, plus souvent à droite qu'à gauche, qui consiste à dire on va commencer par interdire, on discute après, montre que maintenant, il faut qu'on commence à construire un nouveau raisonnement par rapport à cela. Parce que finalement, on le voit bien, Internet n'est pas du tout le rendez-vous de transparence que l'on pouvait imaginer. Arrêtons de nous raconter des histoires. Internet, c'est une multitude d'informations dont on sait qu'on a un droit sur Internet de diffuser de l'information non vérifiée absolument inouïe et infinie et anormale. Internet, c'est aussi, on le sait bien, des éléments de débat nouveaux qui permettent aux citoyens de construire sa part de participation à l'opinion. Vous ayant dit cela, cela m'amène assez naturellement à vous dire que le véritable sujet qui est derrière, c'est celui d'une rénovation en profondeur de la question de gouvernance. Je pense que dans les années qui viennent, l'un des très grands sujets auxquels les citoyens et les responsables politiques vont être confrontés, c'est celui d'une rénovation en profondeur de la manière de prendre les décisions. C'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans toutes les formes d'organisation, et ce sera vrai également dans la manière de conduire les nations et naturellement les ensembles des nations. Après tout, ces sujets-là sont des sujets d'autant plus importants que les acteurs privés sont beaucoup plus rapides que les acteurs publics à modifier, à moderniser, à adapter leurs méthodes de gouvernance. On voit bien aujourd'hui le paradoxe incroyable qui existe entre le fait que notre système, tout démocratique qu'il est, et Dieu sait s'il l'est, reste un système vertical de management top-down. On décide d'en haut, et puis on attend que chacun mette en place les modes d'organisation de la décision qu'on a prise. Alors on a un peu affiné ces dernières années, parce que il y a tout un rituel en France, surtout quand il s'agit de grandes réformes, la période de concertation, vraie puis fausse, fausse puis vraie, alors que tout le monde sait depuis le début ce qu'on va faire, suivi du rituel des manifestations et des grèves qui vont avec, avec un petit moment de rapport de force, et puis ensuite, ben voilà, tout cela revient d'une manière ou d'une autre dans l'ordre, soit c'est parce que c'est le gouvernement qui recule, soit c'est parce que les manifestations sont moins nombreuses et la réforme passe, généralement après toute une série de concessions, et puis en fait on est allé de haut en bas, et puis point barre, avec ceux qui ont parlé, et puis tous les autres qui n'ont pas parlé. Il y a un décalage fantastique entre cette méthode-là, très ritualisée, et les attentes d'une société qui a profondément évolué depuis 30 ans. On ne peut pas continuer de gouverner depuis le haut jusqu'en bas, alors qu'il y a eu entre-temps des pouvoirs nouveaux pour les élus locaux, pour les acteurs économiques et sociaux, et puis pour les citoyens à travers Internet. Je peux témoigner en tant que parlementaire, comme je l'ai fait d'ailleurs en tant que ministre, qu'il n'est pas un sujet qui ne suscite sur Internet des débats infinis, avec des prises de position qui, contrairement à ce qu'on raconte, sont bien souvent constructives, intéressantes, et qu'on n'aurait jamais pu avoir si on n'avait pas cet outil. Donc, on voit bien qu'il y a désormais, pour nous, responsables politiques, à être en initiative sur ces sujets, pour susciter un débat, et naturellement pour l'organiser. Parce que c'est le deuxième élément que je voulais livrer à votre réflexion, c'est la question de la régulation. Il est anormal, je dis bien anormal, que nous soyons les uns et les autres aussi mobilisés, et on a raison de l'être, pour réfléchir à réguler absolument tout ce qui peut, de près ou de loin, constituer une difficulté, un désordre, un blocage dans une société, que ce soit la question financière, la question de la violence, sous toutes ses formes, la question de l'intolérance, et que Internet soit considéré comme un monde intouchable. Et que ainsi, là où on peut dénoncer les abus de certaines grandes entreprises, là où on peut dénoncer les abus de certains comportements dans le monde, entre guillemets, réel, on ne le fasse pas dans le monde d'Internet. Lorsque des entreprises, par le biais d'Internet, se considèrent comme des supports d'information qu'ils n'ont pas à contrôler ni à maîtriser, lorsque des entreprises favorisent l'implantation de sites qui constituent des éléments de vente, y compris de biens de contrefaçon, etc., que tout ça se fait bien souvent sans qu'on ne paye aucun impôt, qu'il n'y ait aucun compte à rendre, tout ça n'a absolument aucun sens. Et du strict point de vue de la démocratie, de la même manière, je ne vois vraiment pas au nom de quoi ce qui s'exprimerait, quelle que soit la forme, sur le support qu'est Internet, aurait moins de compte à rendre qu'il ne l'aurait dans un journal où il pourrait être, par exemple, attaquable pour éventuellement diffamation, diffusion de fausses informations, etc. On voit bien qu'il y a donc maintenant à passer à une nouvelle phase, qui est une phase de maturité par rapport à tout cela. Enfin, je voudrais, c'est ma dernière remarque par rapport à ça, vous parler des responsables politiques. Parce que par rapport à cette question de la gouvernance, en réalité, tout cela, de manière très existentielle et très philosophique, si je peux me permettre, nous renvoie à notre propre condition de décideur politique. Vous savez, l'un des grands dilemmes auxquels on est confronté quand on choisit de consacrer sa vie à son pays, et il ne faut pas s'y tromper, quand on choisit de faire de la politique, c'est d'abord pour cela qu'on le fait, et je le dis au-delà du fait que nous sommes bien souvent brocardés, qu'il est de bon ton de s'essuyer les pieds sur les hommes politiques, on le sait, mais il ne faut pas perdre de vue que tout ce que nous faisons, nous le faisons d'abord pour cela. Et s'il nous arrive de consentir des sacrifices, ce qui est normal, du point de vue personnel ou du point de vue professionnel, nous le faisons d'abord parce qu'il y a cette flamme en nous, quelle qu'en soit la raison. Eh bien, je pense que de ce point de vue, nous sommes désormais confrontés, nous, à un rendez-vous existentiel. Car il est des moments où la force de l'homme politique, c'est de savoir dire non. Et c'est très difficile. Surtout dans une société qui, grâce au progrès technologique, grâce à l'intelligence de ses gouvernants, qui depuis des décennies ont organisé les conditions de la paix et donc de la prospérité, n'ont plus osé, pour toute une série de raisons, dire non. En d'autres termes, ont différé des décisions qu'il était indispensable de prendre, mais qu'ils ont préféré retarder parce que c'est plus facile pour moi de le dire à Versailles. Encore un quart d'heure, monsieur le bourreau. Alors c'est vrai, mais je dis pas ça simplement en souriant. Vous savez, le souvenir de Versailles pour un homme politique d'aujourd'hui, c'est pas un détail. Hein. C'est pas un détail. Lorsque le président de la République dit parfois attention, les Français sont à la fois monarchistes et régicides, il a en tête des exemples très précis et qui ne peuvent pas échapper au moment où l'on prend des décisions fortes en tant que responsable politique. Eh bien, pour ce qui concerne le rapport entre les hommes politiques et la question d'Internet, et donc la question de savoir jusqu'à quel point on peut considérer que ça devient un élément constitutif de l'expression démocratique, il va nous falloir maintenant assumer que dans un certain nombre de domaines, la contrepartie à la multiplication des modes d'expression sera pour les hommes politiques de dire aux Français en permanence voilà où nous en sommes, voilà pourquoi nous prenons cette décision et voilà où nous allons et ce que nous vous proposons de faire. De telle manière qu'ainsi chacun comprenne bien, chaque citoyen comprenne bien qu'il a en face de lui un homme politique parfaitement conscient du sujet, aussi conscient que l'est le citoyen, et qu'il ne tournera pas autour du pot. Et je voudrais, pour terminer, vous prendre un exemple très concret et très précis. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui une époque très particulière. La crise grecque, c'est l'addition brutale qui arrive sur la table de 30 ans de petites reculades, de petites lâchetés, de petites hypocrisies, de décisions qu'on aurait dû prendre et qu'on n'a pas osé prendre. Nous voilà maintenant confrontés à ce dilemme. Nous allons évidemment, dans cette période où les nouvelles technologies sont omniprésentes, avoir des débats dans tous les sens sur ces sujets. Il appartiendra aux responsables politiques, et c'est tout le sens et l'intérêt d'ailleurs, et la noblesse de la démocratie, de prendre position par rapport à cette situation. Et de dire aux Français et aux Européens, voilà, nous allons dans ce domaine devoir prendre un certain nombre de décisions parce que nous sommes en train de changer d'époque. Et que cette nouvelle époque, si on veut conserver notre modèle, commande des décisions difficiles. On va en parler, on va en débattre, mais cela devra se terminer par une décision. Et ça, ça ne peut être que de la responsabilité des hommes politiques. Il y a l'heure du débat, l'heure du dialogue, l'heure du diagnostic et l'heure de la décision. Et la noblesse de l'homme politique commandera, dans ces moments-là, de faire la part des choses entre les expressions nouvelles du débat et la réalité d'une démocratie qui ne tient que parce qu'il est des hommes et des femmes politiques qui, à un moment donné, parce que c'est l'intérêt supérieur du pays, à l'image de ce que nous avons évoqué il y a deux jours, disent maintenant, je vous ai entendu, mais ma responsabilité, et c'est pour cela que vous m'avez choisi, c'est de prendre les décisions qui s'imposent. Et c'est ça qui fera la différence entre la vie au quotidien et ce qui fait que dans les moments essentiels, il est des hommes et des femmes qui doivent monter à la tribune et dire maintenant, il faut y aller ensemble. Ça, c'est un sujet qui relève vraiment de la noblesse de la démocratie.
Merci. Merci Jean-François Copé. Je passe la parole maintenant à Geneviève Fraisse, née en 48. Elle est philosophe. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle a été de 99 à 2004 députée européenne. Bon, je cite simplement quelques-uns de ses livres, surtout ceux que vous pouvez trouver facilement en poche. Muse de la raison, démocratie et exclusion des femmes, qui a été repris en folio Gallimard. Les femmes et leurs histoires. Et leur histoire. Bien sûr, elles font des histoires, mais.
J'adore les lapsus. Ça, c'est dans mon sujet.
Gallimard 98, réédition 2010. Vous voyez, intérêt durable. Les deux gouvernements, la famille et la cité, Folio Gallimard 2000 et 2001, et du consentement, Seuil 2007. Il y en a plein d'autres, mais je m'en tiens là, parce que nous devons rester sur notre tableau de marche. Geneviève Fraisse, c'est à toi.
Merci Yves. La façon de, pour moi, dire merci à Yves Michaud, ce que je souhaite faire, c'est d'essayer de dire comment j'ai voulu répondre aux questions qu'il m'a posées lorsqu'il m'a invitée pour cette journée. Donc j'ai entendu Monique Kantosperber employer le mot pathologie, j'ai entendu mon voisin terminer avec le mot noblesse de la démocratie, donc entre pathologie et noblesse, je voudrais vous parler peut-être de l'escamotage. J'emploierai ce mot que j'ajouterai à ces deux premiers. Escamotage, pourquoi ? Je suis là pour dire leurs histoires à ces bonnes femmes. Donc nous allons essayer de suivre ce fil difficile, difficile parce que pour que ça soit reconnu comme un objet de pensée et un objet de politique, ce n'est pas si simple et il faut y consacrer plus de temps que quelques années de recherche ou de service politique, comme j'ai l'habitude de dire. J'ai écrit un papier dans Le Monde que j'avais intitulé « Quand dire c'est faire ou quand faire c'est dire ?» point d'interrogation. Voilà la question que je voulais poser et apposer aux questions d'Yves Michaud. Après avoir d'abord souhaité intervenir sur ce que j'appelle les deux gouvernements, c'est-à-dire peut-être plus sur la forme de la République de la démocratie, à savoir comment, comme Rousseau disait, les femmes sont la précieuse moitié de la République. On s'est toujours demandé, pour ma part, ce qu'était le précieux par rapport à la moitié. Enfin, on sait que ça voulait dire que les femmes faisaient les mœurs et les hommes les lois. Ça, c'est la République. Pour la démocratie, c'est plus un escamotage au sens propre dont il s'agit, c'est l'article 7 du code napoléonien, dans sa première version, dit qu'est citoyen toute personne jouissant de l'ensemble de ses droits civils. Il est inutile de dire que les femmes ne jouissent pas de l'ensemble de leurs droits civils. Donc seront citoyens uniquement les êtres de sexe masculin. C'est ce que j'appelle la démocratie exclusive, non pas excluante, mais exclusive. Donc, pour répondre à la question d'Yves Michaud, et avant d'en venir à des exemples récents que j'ai pu prendre dans le papier publié dans le journal Le Monde, il faut s'adosser à l'histoire de ces deux derniers siècles, à cet escamotage de l'égalité des sexes qui fait partie intégrante d'une dynamique historique, donc non pas d'une structure de base, mais d'une dynamique historique qui fait qu'il est difficile de penser l'égalité des sexes, beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, en démocratie, comme dans sa forme républicaine. Alors, j'ai pris deux exemples. Quand dire, c'est faire, quand faire, c'est dire. Quand dire, c'est faire, c'est l'exemple que j'ai pris du Caire. débat tout à fait actuel, qui veut dire, qui est un mot anglo-saxon, anglais, qui, comme gender, qui est arrivé il y a quelques années aussi, signifie que nous importons une réflexion qui nous intéresse. Mais peu m'importe que ça soit un mot de langue étrangère. Il veut dire le soin, la sollicitude. Il veut dire la solidarité, comme on disait dans les années 20, par exemple, pour parler de la République aussi. Et il veut dire quelque chose, mais il est prononcé comme si c'était un fer. Parce que nous allons supprimer l'atome individualiste, consommateur entrepreneurial de la démocratie, parenthèse. Une nombreuse proportion de femmes sont dans le lien et non pas dans l'atome individuel dans nos sociétés aujourd'hui. Donc c'est assez surprenant. Mais il faudrait lutter contre cet individualisme que je connais bien par ailleurs et dont je peux parler quand il s'agit du gouvernement domestique, justement. Et on va dire et donc faire quelque chose. J'ai encore entendu l'autre jour, sur une radio périphérique, un économiste dire « mais ce mot, ça nous permet déjà de faire ». Sauf que qui fait ? C'est juste la question que j'avais envie de poser, car j'ai publié un livre qui s'appelle « Service ou servitude, et c'est sur les femmes toutes mains », et qui s'est interrogé sur la contradiction qu'il pourrait y avoir entre service et démocratie. Service domestique, bien sûr, mais service tout court, puisque le service suppose la hiérarchie. Par rapport à la question de l'égalité, et de l'égalité des sexes, l'égalité homme-femme, ça vaut le coup de réfléchir à cette contradiction service et démocratie. Sauf que c'est là où on s'aperçoit que pour soigner des vulnérables, on fait appel à une population vulnérable. 97% de personnes à temps partiel, par exemple. Donc on doit réfléchir que s'il y a des courts-circuits, donc pour répondre à la question posée par ces rencontres depuis 3 jours et par l'initiative d'Yves Michaud, s'il y a des courts-circuits, c'est que entre dire et faire, il semblerait qu'il y ait une vraie difficulté. Difficulté agrandie par ces expressions comme le CAIR, mais difficulté qu'on peut identifier de manière plus large. C'était un premier exemple. Un exemple qui peut renvoyer à des problèmes graves politiquement parlant, et là je suivrai mes les intervenants précédents, c'est-à-dire que ou bien vous faites une politique universaliste, ou bien vous faites une politique catégorielle. C'est ce que l'Europe a pensé sur le mode pour le résoudre, de cette contradiction, de cette opposition entre le particulier et le général, sur le mode de ce qu'on a appelé le gender mainstreaming, que moi j'avais traduit par transversalité, c'est-à-dire que la question homme-femme devait faire partie de l'ensemble des politiques. Pour que ça fasse partie de l'ensemble des politiques, ça veut dire que c'est à la fois ni un cas particulier, ni un cas, ni quelque chose qui doit se fondre dans le général. Il est impossible de sortir de cette contradiction, je ne suis pas du tout optimiste, mais en sachant qu'il est impossible de sortir de cette contradiction, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la montrer. Aujourd'hui, on a asexué les politiques sociales. Un parent isolé, est-ce que vous savez combien c'est de pourcents de femmes ? Non. Mais en revanche, on a sexué le politique grâce à la parité. J'ouvre une parenthèse parce que je ne peux pas m'en priver. La réforme des collectivités territoriales qui devrait faire chuter la présence des femmes de 45 à 20% pose quand même un problème que j'espère notre gouvernement saura résoudre sans dire c'est faire ou faire. En disant autre chose. Je l'adresse évidemment, bien sûr, à mon voisin de gauche. C'était juste, je voulais ne pas oublier cette affaire de parité.
Mais vous savez aussi que votre voisin de gauche a veillé que on bouge quand même, par exemple, dans les entreprises et dans les conseils d'administration.
Le débat est pour après. Oui, le débat est pour après, car je voudrais bien passer
au fait. La moitié de l'hémisphère, il faut faire l'autre. Dans les conseils d'administration, on était à 8%.
Vous êtes en train de me manger mon temps de parole. Vous êtes en train de me manger mon temps de parole. Ça, je ne suis pas d'accord.
Monologue d'abord.
Donc, je continue sur mes histoires. Donc, quand faire, c'est dire. Donc, quand dire, c'est faire, me pose un problème. Voilà ce que je verse au dossier des courts-circuits de la démocratie. Mais quand faire, c'est dire. Ça vaut le coup aussi de se dire que quelque chose est court-circuité. Et là, dans ce papier, j'ai pris l'exemple du voile intégral. Je peux prendre l'exemple du foulard, mais le voile intégral pour être dans le débat contemporain. Un certain nombre de mes amis, c'est-à-dire d'une gauche radicale, dans laquelle je me reconnaîtrais bien, pense que tout ça n'a pas d'importance. Je suis obligée de remarquer à ce moment-là que c'est comme d'habitude. Dès qu'on parle de la question des femmes, dès qu'on parle de la question homme-femme, c'est de l'anecdotique. C'est-à-dire que ça n'accède pas au statut d'objet politique au sens strict. Or, ce que je veux montrer quand je dis qu'en faire, c'est dire, c'est que sortir dans l'espace public avec un signe particulier, c'est un dire politique. C'est pas un dire religieux. C'est pas puisqu'elle consent, tout va bien. Effectivement, j'ai écrit un livre pour essayer d'expliquer combien la question du consentement est extrêmement compliquée et que le consentement individuel n'est pas suffisamment intéressant pour parler de démocratie, que la vérité du consentement, que l'authenticité du consentement sont des choses extrêmement peu assez relativement signifiantes, mais pas suffisamment pour restituer à ce geste sa qualité de geste politique. Donc, je pense que faire, c'est dire. Qu'on n'ait pas envie de savoir que faire, c'est dire. Alors, on pourrait appeler ça émancipation, laïcité, religion. Pas d'importance. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on reconnaisse que c'est un geste politique et un geste qui tente de désigner précisément, par exemple, des inégalités sociales, entre autres. Ou des inégalités, mais à travers la question des inégalités sexuelles. Mon Dieu, il faut prendre l'espace de la réflexion. Donc, quand faire, c'est dire, me paraît aussi important à analyser, à prendre en compte que quand dire, c'est faire. Ce n'est ni de la noblesse, ni de la pathologie, c'est de l'escamotage, de la constitution, d'une réflexion qui comprendrait que les sexes aussi font l'histoire. Tel est sans doute mon projet intellectuel, épistémologique et politique. C'est de montrer que les sexes font l'histoire, que la domination homme-femme ou la non-égalité homme-femme, ce n'est pas quelque chose, un morceau dans un coin d'un espace, mais c'est bien une analyse globale qu'il faut produire. Que cette analyse globale n'est pas, d'où le contresens formidable qu'a fait le titre du Monde pour mon papier, qui est de dire encore à conquérir, comme si nous étions sur ce long chemin merveilleux de l'égalité des sexes, qu'enfin un jour peut-être nous atteindrions. Non, l'histoire de la démocratie, en son principe même, en son départ, en point de départ même, montre qu'il y a une difficulté. Difficulté à comprendre que le citoyen qui jouit de l'ensemble de tous ses droits civils ne sont pas les hommes et les femmes. Difficulté, et j'en conclurai là-dessus, j'ai encore une minute ou deux.
Bon, une minute.
Eh bien, j'en conclurai sur en fait ce que j'avais prévu de faire au départ quand Yves m'a téléphoné il y a quelques mois. C'est, j'aurais voulu vous parler des deux gouvernements. J'aurais voulu vous parler de ce que la République, alors on a parlé démocratie, j'aurais voulu parler plus peut-être de la République, de ce qu'on appelle un peu platement le partage des deux sphères, ou le privé et le public, et qui en fait correspond à un geste inaugural fait entre Locke et Rousseau. Quand Rousseau dit dans le contrat social que c'est un sophisme de comparer le père et le roi, c'est parce qu'il sort l'espace familial de l'espace du contrat social à venir. Et là se joue quelque chose où l'hétérogène du domestique est affirmé de manière à ce que la démocratie ne soit pas amenée à contaminer par ses idées d'égalité, Tocqueville le dira lui-même aussi, ce qui se passe dans l'espace privé. « Qui gardera les enfants ?» était une phrase malheureuse, mal placée, mal adressée, mais c'est la phrase peut-être du XXIe siècle. Comment articulerons-nous ? Il ne s'agit pas de concilier des inconciliables, ça c'est la mauvaise formule. La bonne formule, c'est comment penserons-nous à nouveau, après avoir réussi à donner tort au geste de Rousseau, après avoir réussi ces 200 ans de tentatives démocratiques, comment réussirons-nous à repenser ensemble ces deux espaces domestiques et politiques qui sont bien, je l'affirme, reprenant une expression de l'ancien temps où nous sommes aujourd'hui, quand nous reprendrons l'image des deux gouvernements. Je vous remercie.
Merci Geneviève. Je passe la parole maintenant à Moussa Kedimela, né en 1971. Il fait deux choses, mais il fait beaucoup de choses. Il est conseiller pour le développement durable chez EDT Bouygues Construction et en même temps, il travaille à l'École des hautes études en sciences sociales où il est chercheur associé au CADIS. Ses domaines sont l'innovation sociétale dans le monde de l'entreprise avec des thématiques suivantes, figure de l'islam contemporain, militantisme, radicalisme, espace public, je pense qu'il y aura des échanges, égalité avec Geneviève Fraisse, égalité des chances, Ségrégation urbaine, nouvelle forme de mobilisation collective. Je lui passe la parole, mais comme il est d'une génération digitale, je crois qu'il nous présente en même temps une petite image.
Effectivement, ça marche. Si on peut diffuser juste le film, s'il vous plaît. Merci.
Il rêve de traverser la Manche et de rejoindre Londres. De jeunes chômeurs de Tourcoing se voient offrir un nouveau départ en Angleterre. C'est une association subventionnée par l'Europe qui les aide dans ce projet. Une expérience menée depuis 3 ans et dont les résultats sont largement positifs. Reportage de Catherine Gentil et Sophie Hautefeuille.
Ils en ont assez qu'on dise du mal de leur cité et ils ne supportent plus que leur nom et leur adresse sur un CV les disqualifient aux yeux de nombreux patrons.
Depuis que je suis né, j'ai 20 ans, j'habite dans ce quartier. Hein. J'ai commencé à vivre dans cette rue, quoi, voilà, hein, depuis que je suis tout petit. Maintenant, c'est dans ce bâtiment-là que je vis. Hein.
Il va donc falloir changer d'horizon pour espérer réussir. De très nombreux jeunes ici en sont convaincus.
Je pense qu'en Angleterre, on a beaucoup plus de chances de trouver un travail qu'en France, surtout quand on est jeune et qu'on vient de certains quartiers ou quand on a une origine autre que française, je veux dire.
Ils sont une vingtaine à partir tous ensemble. Ils ont suivi 3 mois de formation pour se débrouiller en anglais, mais aussi dans le métro londonien. Cet homme est également originaire de la région. Il vient expliquer aux jeunes que leurs rêves peuvent se réaliser.
Avec la persévérance, j'ai réussi à aller jusqu'au doctorat. Donc aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Washington à Seattle.
Est-ce que justement dans ces pays, ils vont plus nous donner notre chance de se développer de cette façon ou comme en France, nous bloquer
On va vous donner votre chance. Mais comme dirait un de mes enseignants, il faut 2 pour danser le tango. D'accord ? Il faut que vous y apportiez du vôtre aussi.
Quelques jours plus tard, c'est le début de l'aventure à Londres, sous la houlette de la professeure d'anglais. La restauration est le secteur qui offre le plus d'emplois.
Je suis rentré faire une candidature spontanée sans CV et habillé de façon très simple dans un restaurant. Et j'ai un entretien passé tout à l'heure, chose qui ne me serait jamais arrivée en France.
Oussam est l'un des premiers à avoir obtenu un travail après un essai d'une journée seulement. Il se trouve au milieu des banquiers et des milliardaires, au cœur de la city.
Moi, je veux dire, j'ai de la chance, je suis tombé sur un resto avec des habitudes françaises. On va dire que je travaille 35 heures par semaine minimum, on va dire, enfin en moyenne. Mais ailleurs, c'est vrai qu'on travaille 50 heures par semaine, 60 heures, il n'y a pas d'heure ici, c'est le travail qui prime.
Le salaire n'est que de 6 euros de l'heure, mais Oussam et ses amis ne comptent pas ménager leurs efforts pour réussir leur vie.
En Espagne, première grande journée d'action des fonctionnaires contre le plan d'austérité. Ils ont cessé le travail.
Alors, merci. Bonjour à tous. Merci à l'UTLS, merci aux organisateurs et bonjour à toutes et à tous. Mon propos souhaite se faire l'écho aujourd'hui à partir du reportage que vous venez de voir et qui me paraît le vrai sujet de la démocratie d'aujourd'hui. C'est celui d'une certaine faillite, justement, de notre système démocratique. Cette faillite du système démocratique, aujourd'hui, elle se décline dans un sujet qui me paraît le sujet véritablement aujourd'hui, c'est celui de la justice sociale. Je trouve que ce reportage est très significatif et c'est pour ça que je souhaitais que vous le voyez. On parle plus de la fuite des cerveaux, on parle de la fuite de gens qui sont pas diplômés, qui ont envie de s'en sortir et qui ont le sentiment de pas être reconnus comme citoyens. Et que la seule issue aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle de faillite, c'est de devoir quitter la France. Et je trouve ça effarant. Alors, vous parlez aujourd'hui rapidement, selon un déroulé, où je vais vous donner quelques préalables qui me paraissent importants tout d'abord. Ensuite, vous parlez de ce que je nommerais pour ma part les citoyens du centre et les citoyens de la périphérie. Et j'expliquerai ce que j'entends par là. Et enfin, rapidement également, compte tenu du temps imparti, de parler de ce que j'ai appelé les nouvelles agora et de la nécessité d'une innovation sociale. Alors Yves Michaud l'a dit, j'ai eu la chance de graviter dans différentes strates de la société, et notamment de mener quelques recherches dans différents secteurs, notamment à l'usine par exemple, dans les prisons, dans les zones urbaines sensibles. Vous savez que c'est les slogans, le petit sigle, pardon, attitré, ZUS. On peut se poser la question, d'ailleurs, comme le disait Begag, pourquoi est-ce que ça s'appelle sensible et pas insensible? Pourquoi est-ce que ça s'appelle chaud et non pas froid? Donc, essayer de faire une carte de la France de ce qui est chaud, sensible, froid ou sensible, justement. Alors, donc, dans ces différentes strates, le vrai sujet, c'est celui de l'injustice sociale. Le préalable qui me paraît important, pardon, c'est d'abord de parler de phénomènes qui sont des lames de fond qui se jouent aujourd'hui de la plupart des sujets. C'est ce que l'on peut simplifier en parlant de glocalisation. J'aime bien en parler régulièrement, puisque aujourd'hui, ce qui caractérise la plupart des sociétés occidentales, et notamment la nôtre, c'est que tout s'uniformise par le haut et que tout se parcellise, se particularise par le bas. On est de plus en plus globaux sur Internet à avoir à peu près les mêmes références, et on est de plus en plus bretons, kabyles, gays, musulmans, voilés, ou Corse. Et donc ce n'est pas antagonique et ce sont deux phénomènes qui travaillent de concert. Alors ce préalable va complètement, ce phénomène de glocalisation s'accompagne de celui de la crise de la légitimité et de la crise de la participation. Et pour ma part, il me semble que cette crise de la légitimité, donc de toute forme d'autorité, c'est vrai au niveau micro et c'est vrai au niveau macro également, donc c'est autant celle des parents que autant celle des institutions, celle des politiques, et les participations aux différentes élections, notamment dans ces zones chaudes dont je parlais, est assez caractéristique. Alors, après ce préalable, vous parlez pardon, de ce que j'appelle aujourd'hui les citoyens centraux et les citoyens périphériques. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, clairement, on est dans une société que je pourrais appeler par piliers. Les sphères de socialisation qui existaient jusqu'à présent, qu'ont été traditionnellement le syndicat, le parti politique, l'école, etc. Tout ça est en crise et aujourd'hui, ça ne communique plus. Et donc, ce qui fonctionne par contre assez bien, c'est qu'il y a aujourd'hui des citoyens que Bourdieu appelait, pour caricaturer, les dominants qui sont à la faveur d'une sorte de reproduction sociale. Et autant il y avait des principes de méritocratie qui, Bourdieu en a fait d'ailleurs, on a été le bénéficiaire, puisqu'il était fils d'un postier lui-même. Mais il a eu justement cette sociologie critique qui visait à dire qu'il y a des processus de reproduction sociale. Et il me semble aujourd'hui que les procédures alternatives pour que justement la reproduction sociale sorte un petit peu de cette roue sur elle-même et permette à des citoyens un peu différents d'accéder à différentes strates de décision dans l'entreprise, dans la politique et autres, puissent se faire. Donc ces citoyens centraux sont des manipulateurs et dispensateurs de la parole normative, de la parole sacrée républicaine. Et souvent, pardon, ils sont... Ils sont ceux qui désignent aujourd'hui de plus en plus, et on l'a vu avec l'identité nationale, le débat sur l'identité nationale, ils disent qui sont les bons Français et par conséquent qui ne sont pas ceux qui sont tout à fait légitimes. Alors, il y a quelques expressions qui me plaisent beaucoup, c'est celle d'Ahmed Boubekeur qui parle des Français de fraîche date avec un seul T, bien évidemment, et ou alors Amel Bent qui parle de ces nouveaux Français. Et donc aujourd'hui, ils sont issus justement de la périphérie de l'Europe, ils sont extra-européens, et ils viennent aujourd'hui apporter une vision tout à fait différente. Alors, ce qui est vrai au niveau macro est vrai au niveau micro également. Donc, quelque part, Obama est un périphérique qui est arrivé dans le système américain, dans le système politique aux plus hautes sphères. Alors, de l'autre côté, on peut parler à l'opposé, donc non pas des citoyens un peu centraux, légitimes, qui sont, j'allais dire, dans les différentes strates de la société, ceux qui en bénéficient de tous les faveurs. Il y a, justement, par opposition, et un petit peu dans l'angle mort, des dysfonctionnements de la démocratie, des dysfonctionnements, et ce sont souvent les mêmes citoyens qui se retrouvent à l'intérieur. Alors, Papendiaï en parlera peut-être mieux que moi, c'est la question des minorités d'une manière générale. Et effectivement, dans ces périphériques, il y a aussi, et il y a autant, pardon, les minorités agissantes sous-représentées dans la démocratie participative. Donc ce sont bien évidemment les femmes, et on le sait, droit de vote 1945, droit d'ouvrir un compte indépendamment de son mari 1971, année de ma naissance. Donc ces personnes, ces citoyens sous-représentés, aujourd'hui, ils sont sur-représentés justement par un stigmate. Alors, ça peut être le sexe d'un côté, ça peut être l'adresse, ça peut être l'histoire, le fait qu'on ait des parents issus des anciennes colonies, par exemple. Et aujourd'hui, avec tout le respect que je dois à Monsieur Copé, j'ai découvert avec effarement que j'appartenais au peuple des Auvergnats, qui est notamment très représenté autour de nations et qui a donné à notre pays beaucoup de... il nettoyait les cheminées beaucoup à Paris, le nom m'échappe. Des ramoneurs, voilà. Beaucoup de ramoneurs.
Qui a donné Vercingétorix aussi.
Aussi. Bon, on en parlera, monsieur Copé. Et donc, c'est périphérique aujourd'hui, et c'est le vrai sujet, à mon avis, et qui m'intéresse beaucoup autant dans mes recherches du côté de l'entreprise que du côté, j'allais dire, de la société civile, c'est comment ces périphériques arrivent aujourd'hui, parce qu'il y a une tendance aujourd'hui démographique dans notre pays, ces périphériques arrivent dans différentes strates de la société et re-questionnent complètement l'ensemble des fondements de notre démocratie. Alors, pour ma part, c'est quelque chose, c'est un vent nouveau, c'est un vent frais, parce que se poser des questions sur sa propre démocratie, c'est pour moi d'un grand intérêt. Alors, dernier point, ce que je pourrais appeler les nouvelles agora et l'innovation sociale. Ces dysfonctionnements dont je parlais, on les a vus en prison avec, par exemple, Parade Khosrow-Kavar, avec un dysfonctionnement notamment du principe de laïcité. Ça a apporté un certain nombre d'innovations au sein des prisons aujourd'hui, diverses et variées, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais ces nouvelles agora, pour ma part, il me semble qu'elles sont dans trois sphères principalement. C'est aujourd'hui l'école, l'entreprise et la société civile. Alors, c'est malheureusement pas dans la politique. Donc l'école, l'entreprise et la société civile, il y a donc aujourd'hui cette confrontation qui génère des courts-circuits qui sont à mon avis salutaires. Souvent on les catégorise par des contre-feux, par des résistances, par des nouvelles agora. Je vais vous donner quelques exemples. Alors par exemple dans le domaine de la politique, on pourrait parler de deux lois qui résument à elles seules le débat, c'est les lois Guesso et les lois Taubira. Loi Guesso qui donne une sorte de direction de ce qu'il est bon de penser sur l'histoire et quelle est la bonne position de l'histoire, ce qui pour moi est d'un point de vue absolument, qui pose question. Enfin, l'histoire aujourd'hui, on le sait, elle évolue chaque jour et de dire quelle est la meilleure façon d'appréhender un phénomène historique est pour moi pose question. La seconde, c'est les lois Taubira, et qui fait référence à toute cette compétition des mémoires aujourd'hui, puisque les citoyens devenant de plus en plus pluriels, cette multipolarité de la démocratie fait qu'aujourd'hui, les origines sont différentes et qu'elles vont être reconnues en tant que telles. Alors, siffler la Marseillaise en 98, par exemple, où il y a eu cette joie collective autour de la Coupe du Monde, on peut d'ailleurs décliner la figure des périphériques au niveau de la Coupe qui est en train de se jouer aujourd'hui, puisque la plupart des grandes équipes sont en train de se faire détrôner par des équipes un peu périphériques. Donc, loi Taubira, loi Guesso, j'en parlais. Donc, dans le milieu politique, elle résume à elle seule un petit peu l'écart qui peut se produire. Pour l'entreprise, on parle effectivement beaucoup, comme l'a dit Tocqueville, déjà à son époque, qu'il est parfaitement injuste de traiter de manière égale des personnes inégales. C'est tout le débat sur la diversité depuis les lois 2003 sur l'égalité des chances. Ça a accouché aujourd'hui d'une souris, bien qu'il y ait un rapport SABEG qui est en train de se poser. Tout ce qu'on a fait autour de la charte de la diversité ou d'un certain nombre de dispositions, donc, ont échoué. Là où il y a un intérêt qui a commencé à se générer, il y a une vraie innovation sociale, c'est par exemple la contribution qui est en train de se faire entre des grandes entreprises, la mienne en fait partie, contribution autour de ce que Richard Descoings a mis en place autour du projet de lycée expérimental qui existe aujourd'hui dans une dizaine de lycées français et qui fonctionne relativement bien. Il y a à côté de ça dans la société civile toute une mobilisation pléthorique. Alors, on peut parler d'association des managers de la diversité. Pape Ndiaye fait partie de Capdiv, il pourra nous en parler. Il y a le CRAN, il y a Africa Agora, il y a tout un ensemble d'acteurs qui aujourd'hui portent un petit peu ces courts-circuits et apportent, j'allais dire, questions autant dans la société civile qu'au niveau de l'entreprise. Et il me semble que c'est très salutaire. Alors, j'ai contribué, pour conclure, beaucoup moi-même également avec une mobilisation qui a très bien marché, que je trouve assez exemplaire, c'est celle de la journée sans immigrés, donc qui s'est mise en place en France, mais qui a eu des échos en Europe et qui a mobilisé via des réseaux sociaux, justement, donc un ensemble de citoyens. Alors, je ne peux pas développer, j'en dirai peut-être un mot dans le débat. Pour conclure, je dirais un petit peu comme Monsieur Copé, qu'on a 30 ans de reculade sur la question de la justice sociale, notamment dans les quartiers, et que la problématique, Taylor en a parlé, Habermas en a parlé, la vraie question aujourd'hui, c'est celle de la manière dont on peut vivre ensemble égaux et différents, comme le disait Touraine, ou peut-être encore plus spécifiquement, Charles Taylor, qui à mon avis a posé les questions du débat de manière vraiment intéressante dans son ouvrage qui s'appelle Multiculturalism and Politics of Recognition, qui date des années 90. Donc, comment est-ce qu'une société démocratique peut traiter ses citoyens de manière équitable tout en assurant leur reconnaissance particulière, leur reconnaissance d'une identité culturelle particulière? Je vous remercie.
Merci. Alors, tout de suite, on poursuit avec Pape Ndiaye, né en 65, professeur à l'EHESS, historien des minorités en France et aux États-Unis. Je cite un seul livre, La condition noire, essai sur une minorité française, Folio Gallimard 2009. À vous, Ndiaye.
Merci beaucoup, Yves Michaud. À vous, Yves Michaud, et aux organisateurs de l'Université de tous les savoirs pour votre invitation et puis surtout pour l'organisation de ces journées de débat, tant il est vrai que la vie démocratique a besoin de délibération et d'espace de délibération. Justement, je vais en parler. Comme le soulignait Pierre Rosanvallon hier dans sa séance inaugurale, la démocratie n'est pas un modèle mais une expérience, une histoire. Il a montré comment on a réfléchi depuis le 19e siècle à l'amélioration ou à des réformes de la représentation politique. Comment, en particulier, enrichir le moment électoral? Et vous savez qu'on a beaucoup expérimenté via des référendums, l'invention des primaires qui sont à l'ordre du jour en France, ou même les recalls à l'américaine, la possibilité d'avoir des élections anticipées lorsqu'on n'est pas satisfait de son élu. Vous imaginez? Comment améliorer la communication entre les élus et les citoyens? Alors, on pourrait parler d'Internet, naturellement. Comment améliorer le fonctionnement des partis politiques, dans la mesure où on les reconnaît comme essentiels aux procédures démocratiques, le fonctionnement des institutions? Bref, sur le sujet de la représentation politique, la démocratie est bien un chantier en cours, une expérience. Mais si la question de la participation des citoyens à la vie démocratique se pose de manière aiguë aujourd'hui, c'est non seulement en raison de la désaffection électorale, et de ce point de vue-là, l'élection présidentielle de 2007 n'a pas enrayé la progression structurelle de l'abstention, elle n'a été qu'un sursaut relativement momentané, mais également en raison de la faiblesse relative en France de la démocratie délibérative. Si l'on admet en effet que la légitimité des décisions politiques ne peut reposer uniquement sur les institutions et les élus, alors la démocratie représentative ne suffit pas. Elle nécessite d'être complétée par des dispositions qui puissent favoriser l'expression de voix contestatrices, de voix dissidentes, en considérant que ces voix-là sont nécessaires pour faire advenir des questions qui sont généralement sous-estimées, maltraitées, escamoté, disait Geneviève Fraisse tout à l'heure, par la représentation politique. À cet égard, la sphère publique en France s'est plutôt historiquement constituée autour des partis politiques. Vous savez que l'histoire des partis politiques, c'est un des grands sujets de l'histoire politique en France, y compris lorsque ces partis sont relativement récents. L'UMP, par exemple, est un parti récent, mais c'est un parti qui a une longue histoire politique et intellectuelle, mais aussi de syndicats, des grands syndicats ouvriers, des grandes associations comme la Ligue des droits de l'homme qui s'est fondée au moment de l'affaire Dreyfus. Parallèlement à cette vie-là, on assiste depuis donc la fin du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres aussi, à ce qu'on pourrait appeler une vie politique en marge de cela, avec relativement peu de prise sur la représentation, une vie politique très active dans le monde associatif, avec des associations féministes, avec des associations de travailleurs immigrés qui se sont constituées il y a un siècle, avec des associations de sujets coloniaux qui ont également été vivaces et qui ont développé ce qu'on pourrait appeler des discours subreptices, des discours en marge du monde politique classique, et puis qui, de temps en temps, par des espèces de coups de boutoir, en quelque sorte, ont pu se faire entendre de manière très vive. Mais ces voix supposent, pour être entendues avec quelque force, d'être donc minimalement organisées. C'est ce que j'appelle la politique des minorités. La notion de minorité doit ici être entendue dans un sens politique. Le sociologue américain Louis Wirt, dans un article de 1945, un article célèbre, définit la minorité comme, je le cite, un groupe qui, en raison de caractéristiques physiques ou culturelles, est soumis à des traitements différenciés dans la société et se considère comme objet d'une discrimination collective. Fin de citation. De la sorte, il faut admettre que des groupes démographiquement majoritaires, comme les femmes, par exemple en France, puissent être en situation minoritaire. En France, sous cette acception politique, le terme de minorité n'a guère été employé jusqu'à ces dernières années et ne l'a même pas été du tout en ce qui concerne les politiques publiques. Cela en raison d'une approche républicaine classique, en principe aveugle aux particularités et qui ne reconnaît que l'existence de citoyens abstraits, et puis aussi en raison du fait que les sciences sociales et politiques se sont focalisées non sur des minorités, mais plutôt sur des groupes découpés différemment, comme les ouvriers, les immigrés, etc., groupes dont l'existence était perçue comme réelle et conforme au bien commun. Il faut enfin ajouter la méfiance à l'égard des États-Unis, construits en repoussoir, qui seraient soumis à une improbable dictature des minorités à laquelle, du côté français, il faudrait échapper coûte que coûte. Même si un changement s'est opéré récemment en France, avec la multiplication de références aux minorités dans les discours publics, cela n'a pas pour autant induit ce que j'appellerais une transformation de la grammaire politique française qui aurait favorisé l'essor d'une politique des minorités. Celle-ci doit donc se développer et a dû se développer dans les marges en étant régulièrement soumise à des procès en disqualification, sans jamais vérifier si les torts allégués et demandes de non-domination avaient quelques fondements. Or, les coalitions et les groupes minoritaires ne délimitent pas des communautés, mais des individus ayant en partage une vulnérabilité quelconque et en leur compagnie celles et ceux qui s'associent à leur lutte, ceux que le sociologue Goffman appelait les initiés. La vulnérabilité peut être liée à une particularité ethnique, genrée, de mœurs sexuelles ou bien à une profession stigmatisée, à une maladie, à une infirmité, à une adduction, etc. Ce que le philosophe américain appelle des classes de vulnérabilité, le philosophe Philip Pettit, ont intérêt à faire valoir leur point de vue dans l'espace public, à ce qu'ils soient pris en considération plutôt que balayés d'un revers de manche méfiant ou méprisant. Et cet intérêt a bien une portée générale pour peu que l'on reconnaisse que la réduction des discriminations et des dominations relèvent du bien commun. L'intérêt général et les intérêts particuliers peuvent ici se rejoindre. Les femmes, par exemple, ont un intérêt propre à la réduction des discriminations sexistes, mais celles-ci relèvent bien de l'intérêt général et on peut admettre que l'intérêt général ne s'exprime pas seulement par des institutions d'État, par les élus qui ont une part importante, mais aussi par des formes de mobilisation citoyenne où les femmes, en l'occurrence, aient une place tout à fait centrale. Il est donc réjouissant que se développent, en dépit des difficultés que j'ai soulignées, ce que j'appellerais aussi des consciences minoritaires pragmatiques, fondées moins sur une identité commune que sur une vulnérabilité commune, pouvant être utilement réduite
par des coalitions minoritaires, que les femmes, les travailleurs immigrés, les sans-papiers, les sans-logement, les noirs, les arabes, les homos, les prostituées, les détenus ou anciens détenus, les malades, les handicapés, les usagers de drogue, etc., s'organisent collectivement en utilisant les réseaux sociaux qu'Internet permet de développer, me paraît être une bonne chose pour la démocratie. Ces groupes-là, ces associations, ces coalitions peuvent, pour renforcer leurs arguments, s'appuyer sur des experts, sur des intellectuels, mettre en avant les torts qu'ils subissent, les prouver, les alléguer, former des chaînes de solidarité, rechercher des alliés et des porte-paroles dans les partis, les syndicats, les assemblées électives. Ces démarches-là permettent, me semble-t-il, de faire l'économie d'un débat sur les identités, politiquement peu fructueux, pour ne se fonder que sur des torts allégués et avérés et un intérêt commun à réduire ces torts. Les espaces délibératifs de contestation ainsi créés n'ont pas vocation à la représentation élective, même si, à partir de ces espaces, peuvent peut-être, pourront sans doute, émerger des figures politiques aptes à l'élection. Mais leur stabilisation institutionnelle permettrait de ne pas réduire la démocratie à sa seule dimension représentative. Bien que nécessaire, celle-ci ne garantit pas l'accès à la citoyenneté pleine et entière des individus dominés. Une politique des minorités me paraît être une composante indispensable de la démocratisation de la politique française, de l'expérience démocratique, pourrait-on dire, et du développement des expressions plurielles du bien commun. Merci.
Alors, avant qu'il y ait des échanges, il me reste à passer la parole à Catherine Tasca, née en 1941, ancienne élève de l'École nationale d'administration. Elle a été directrice de la Maison de la culture de Grenoble de 72 à 77, puis co-directeur du théâtre de Nanterre-les-Amandiers, donc une expérience très concrète. Et ensuite, elle a occupé divers postes ministériels, et notamment, elle a été ministre de la culture et de la communication de 2000 à 2002. Depuis 2004, elle est sénateur des Yvelines, inscrite au groupe socialiste, et depuis 2008, vice-présidente du Sénat. Un livre, un choix de vie, culture et démocratie, Plomb 2002. Madame Tasca, je vous passe la parole.
Merci beaucoup. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier de votre initiative qui nous a permis de nous retrouver sur les bancs d'une université pendant 3 jours et c'est toujours utile, même quand on a mon âge. Les Grecs anciens nous ont légué un rêve magnifique, celui du gouvernement du peuple par le peuple. À travers les siècles, ce rêve s'est concrétisé sous des formes diverses. L'idée démocratique s'est ressourcée dans la Révolution française et les modèles anglais et américains, pour l'essentiel dans des systèmes représentatifs. Car l'agora des temps modernes est trop vaste pour permettre l'expression directe des citoyens à chaque stade de la décision collective et de la fabrication de la loi. L'expression de l'intérêt général, jusqu'ici en tout cas, passe au filtre de l'élection et des représentants. Rapportée à l'ambition originelle, la démocratie d'aujourd'hui déçoit pour au moins 3 raisons. Elle se voulait résistance à la monarchie, refus du gouvernement d'un seul. Or, le modèle plébiscitaire et présidentiel a gagné la partie presque dans le monde entier. L'attente du leader providentiel, de l'autorité suprême, l'emporte largement sur le souci de la représentation pluraliste. Il n'y a qu'à voir, dans notre pays, la mise sous tutelle du Parlement par l'exécutif. Deuxième raison de déception, la démocratie se voulait expression de la volonté de tous. Or, une part croissante du corps électoral ne se reconnaît pas dans nos institutions et ne participe pas au vote, s'excluant de fait par l'abstention de la citoyenneté active. De plus, il y a le refus du vote des étrangers. Enfin, et c'est à mes yeux la déception la plus importante, la démocratie voulait un citoyen libre capable de penser par lui-même pour construire son propre chemin et contribuer à bâtir le destin collectif. C'est à la croisée de l'autonomie de l'individu et du progrès de la cité que la démocratie trouve son sens. J'ai envie là de citer un texte de Pierre Mendès France dans La République moderne. Il écrivait « La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans l'urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir. Elle est action continuelle du citoyen. Si cette présence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvernements sont abandonnés à leur propre faiblesse et cèdent bientôt soit aux tentations de l'arbitraire, soit à la routine et aux droits acquis. La démocratie n'est efficace que si elle existe partout et en tout temps. Or, le citoyen aujourd'hui est de plus en plus objet et de moins en moins sujet. De plus, les Grecs n'avaient pas imaginé qu'entre le peuple et le pouvoir allaient s'immiscer à ce point les puissances d'argent. Triple déception, donc. La démocratie d'opinion est-elle un renfort pour la démocratie ou un détournement, voire une trahison ? L'intrusion permanente, quotidienne dans la vie publique, des sondages d'opinion, des médias, d'Internet, forge une opinion collective qui dispense chacun de penser par lui-même et le laisse livrer à l'opinion dominante. Si on se met du côté des gouvernants, il y a là des outils nouveaux de connaissance d'un certain état de l'opinion qui ont leur utilité. Je renvoie aux propos vendredi des sondeurs Stéphane Rosès et Brice Teinturier. Mais si on se met du côté des gouvernés, c'est plutôt un désarmement, à mon sens. Je ne crois pas que cette surabondance de sources d'informations serve automatiquement la capacité propre d'expression. C'est un peu comme si on voulait apprendre à nager à un enfant sans jamais lui retirer la bouée. Enfin, l'excès de recours à l'opinion à travers toutes les nouvelles techniques de communication recèle un danger certain de démagogie, voire de populisme. Au nom de l'opinion de masse, on récuse souvent les élites. Certes, on ne doit pas laisser celles-ci accaparer le pouvoir, et elles l'ont fait trop souvent, mais elles ne doivent pas non plus être niées ou exclues. Ces critiques que je formule à l'égard de la démocratie d'opinion ne me conduisent pas à un constat désabusé, ne serait-ce que parce que je reconnais, comme tous les intervenants, la novation et l'utilité de ces techniques. Mais cela, donc je ne débouche pas pour autant sur un constat désabusé, j'en tire au contraire deux convictions pour l'action. La première, c'est qu'il ne faut pas lâcher la démocratie représentative. Il faut tout faire pour la renforcer. Je renvoie aux propos de Pierre Rosanvallon sur la, qui ont déjà été évoqués d'ailleurs, sur la dualité démocratique, l'importance de l'élection pour dégager des majorités, à condition bien sûr que le plus grand nombre vote et que ce vote soit libre, et la nécessité de multiplier les lieux d'expression impartiaux avec des autorités indépendantes. Sur ce dernier point, la régression démocratique est patente dans notre pays. Il suffit de voir le sort réservé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Conseil de la magistrature, à la HALDE et à la Défenseure des enfants, pour ne prendre que des exemples évidents et récents. J'ajoute qu'il faut, entre deux élections, multiplier les lieux d'apprentissage et de participation démocratique. De ce point de vue, la pauvreté de la démocratie dans l'entreprise est un frein considérable au progrès démocratique dans notre société. Je souscris tout à fait aux propos de Michel Muller sur la nécessaire régénération du syndicalisme. Deuxième conviction pour l'action, culture et démocratie, pour moi, ont en effet partie liée. C'est mon dada, c'est surtout l'expérience que je tire de toute ma vie professionnelle et politique. Seul un peuple instruit et cultivé peut prendre toute sa place
dans la démocratie. Si c'est une utopie, c'est une utopie vitale, en tout cas pour la gauche. Nous savons que la participation démocratique passe par la capacité à se forger une opinion, à exercer le sens critique et à prendre la parole. On a donc le devoir de donner à chaque citoyen les outils de sa participation. Il nous faut absolument remettre le projet éducatif au centre des programmes politiques, en particulier la maîtrise de la langue et la connaissance de l'histoire font partie de l'armement indispensable du citoyen. Et c'est pour ça que j'ai entendu avec beaucoup de bonheur la communication du professeur Michel Vauvel. Il faut aussi donner toute leur place dans la cité à la culture et aux arts, même si le vent dominant ne souffle pas dans ce sens. Enfin, sans oublier qu'il est membre de la communauté internationale, comme l'a rappelé hier Daniel Inerariti, hier avant-hier même, un citoyen actif est celui qui est fort de sa raison, de ses connaissances, mais aussi de son imaginaire. Merci.
Bien, il nous reste une petite quarantaine de minutes. Alors, comme vous l'avez vu et tout au long de ces journées, nous ne sommes pas à la télévision. Je ne suis pas Serge Moati, à riposte, quelque part dans la fosse d'orchestre, en train de distribuer les paroles. Et donc, j'ai choisi d'organiser le débat, réfléchi, puisque tout le monde a pu s'écouter, ici, de la manière suivante. C'est-à-dire que je demande, j'ai fait passer un petit billet en ce sens, vous avez pu le voir, je demande à chacun des intervenants ses réactions sur deux points. Je dis bien deux points, pas trois ni quatre, sur deux points seulement qui ont sollicité son attention et sa réflexion dans l'ensemble des interventions. Donc, nous poursuivons notre entreprise de démocratie réfléchie et dans ces conditions, je passe tout de suite la parole, je recommence le tour de table un peu dans le même sens, je passe tout de suite la parole à Monique Canto en lui demandant cette fois-ci de faire moins que 10 minutes hein, puisque nous n'avons pas énormément de temps pour tout ça. Voilà, Monique, c'est à vous sur les deux points de réflexion que vous ont inspiré les interventions.
Merci et merci à tous les intervenants. C'était des contributions extrêmement riches et de très grande qualité. Deux choses m'ont frappée et ce sont celles que je vous proposerai comme thème de réflexion. Beaucoup des communications ont abordé la question de l'ouverture de notre société et du sentiment de justice, en particulier de justice sociale ou de justice des possibilités, des opportunités laissées à chacun que donne notre société. Il est incontestable que nos sociétés sont beaucoup plus démocratiques. Il y a une cinquantaine d'années, l'école est accessible à tout le monde. Il y a de moins en moins de places réservées. Il y a un discours égalitariste militant. Et pourtant, il faut constater que ça ne marche pas. Deux interventions ont souligné ce point. Et on voit d'autant plus que ça ne marche pas qu'en effet, le renforcement de l'universalisme a pour effet paradoxal, mais inévitable, de renforcer les identités. Les personnes ont plus conscience de leur singularité et se rendent bien compte qu'il y a dans cette singularité une forme de revendication, d'accès et de reconnaissance qui n'est pas prise en compte par la société. Ça, je crois que c'est un thème vraiment très fort et qui marque l'insatisfaction démocratique contemporaine. Alors après ça, la question qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Beaucoup des réflexions allaient quand même plutôt dans le sens d'une intervention politique accrue, si j'ai bien compris, avec des nuances quand même à chaque fois. Moi, il me semble que c'est par excellence une des questions où, pour le coup, le peuple, si peuple il y a, doit se prendre en charge lui-même, se saisir de ces questions, travailler sur lui, créer ses propres normes. Je suis convaincue que ce sera infiniment plus efficace. Évidemment, le politique doit prononcer des discours forts, des orientations, mais je ne crois pas aux résultats garantis d'interventions législatives, en particulier trop explicites dans ce domaine. Je crois que beaucoup de choses sont inventées par cette société civile dont on nous parle constamment, mais dont on attend vraiment qu'elle se mette en mouvement et qu'elle soit une instance productrice de normes qui vont dans le sens d'une plus grande égalité, que des groupes de pression s'organisent, que des viviers se constituent. Bon, je parlerai de la question que je connais le mieux, qui est celle des femmes. En effet, la situation des femmes, une fois tous les droits acquis, ne s'est pas améliorée. Certaines même ont le sentiment qu'elle s'est détériorée. Et pourtant, les interventions législatives ont été nombreuses ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense que c'est le cas où on peut observer de manière claire que désormais la loi est impuissante. C'est sur les mœurs qu'il faut travailler. C'est aux femmes de s'organiser, de constituer leur vivier, leur groupe, de constamment rappeler qu'il y a des femmes là et qui devraient voir une place plus grande leur être accordée dans la société. Cela me paraît absolument fondamental. Je ne vous dirai pas ce que je pense de la dernière initiative législative qui se prépare sur les 40% de femmes au conseil d'administration. On sait très bien que ces règles profite toujours aux insiders et ne contribue pas à ouvrir la base. 40% de femmes au conseil d'administration, ça signifiera pas plus de femmes qu'il n'y était pas auparavant dans les conseils. Ça signifiera les femmes déjà présentes avec plus de conseils d'administration. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, parce que il a été admirablement exposé par Madame Tasca et je souscris au dernier développement qu'elle nous a proposé, la surabondance d'informations ne signifie pas l'accroissement de l'intelligence. C'est évident. Pourquoi? Parce que l'intelligence, dans la délibération collective, ça repose sur la capacité de différencier entre la qualité des informations et surtout, en même temps qu'on sait davantage de choses, acquérir un esprit critique de plus en plus fort. Nos sociétés sont inévitablement des sociétés moutonnières, de conformisme terrible, qui sont une menace majeure pour la liberté individuelle. Notre seule ressource, c'est le développement de l'esprit critique. Si nous voulons conserver ce grand acquis de la pensée libérale dont nous sommes aujourd'hui encore, et j'espère pour longtemps, les héritiers, toutes les opinions ne se valent pas. C'est une chose qui est tout de même... dont on a le sentiment aujourd'hui qu'on a renoncé à la déclarer haut et fort. Et c'est pas pour autant qu'on a un esprit antidémocratique. On n'avance pas une opinion sans se sentir responsable de cette opinion, sans chercher à les justifier par des arguments qui s'appuient, qui ne soient pas des arguments d'autorité, mais qui soient des arguments qui peuvent être proposés par une seule personne s'élevant contre la foule. Là encore, je ne pense pas qu'il soit fait du politique d'intervenir constamment, mais du moins ne pas brouiller les cartes. Platon avait l'idée sans doute folle que c'est aux gouvernants d'éduquer le peuple, et l'idée encore plus folle que seuls les philosophes pourraient y parvenir. Ce monde est évidemment révolu, mais les gouvernants peuvent faire une chose considérable et d'une importance extrême aujourd'hui, c'est aider le peuple à s'éduquer lui-même en lui donnant tous les moyens pour cela. Force une éducation qui véritablement donne des acquis intellectuels, véritable accès à tous, de toutes les formations, même les plus difficiles, etc. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Madame Tasca. Et surtout, ne pas faire en sorte que des pressions, des groupes d'intérêt qui combattent sur le champ politique soient transformés en règles de vérité et en normes. J'insiste beaucoup sur ce point. Il ne faut pas que la référence de ce qu'est une opinion justifiée, une idée vraie ou une norme acceptable soit brouillée par des interventions politiques qui soient un peu trop réactives par rapport à l'état des émotions de l'opinion.
Merci. Merci. Donc, Jean-François Copé, à votre tour de réagir.
J'ai bien du mal. Bien du mal, parce que je dois vous confesser, ça m'arrive pas si souvent, mais j'ai été bien souvent, non seulement en profond désaccord avec ce que j'ai entendu, mais en plus un sentiment difficile, que j'entendais beaucoup de commentaires, beaucoup de diagnostics, de choses que nous savons, que nous déplorons, que nous dénonçons, des propos aussi parfois un petit peu... un peu sectaire, un peu injuste, qui me paraissent tellement décalées. Je sais que c'est difficile quand on est politiquement engagé, de pas de temps en temps, parce qu'on croit profondément à ce qu'on fait, ne plus se poser de questions de ce qui peut venir du camp d'en face. Parce que c'est le camp d'en face, on tape et on ne regarde même plus. Enfin, quand même, quand j'entends parler de régression démocratique en France, c'est vrai que j'ai du mal à suivre. Quand j'entends dire que cette loi sur la parité dans les conseils d'administration, quelle horreur! C'est tellement pas comme ça qu'il fallait faire. Sans doute. Seulement, on sait une chose, c'est que si on fait rien, on reste évidemment avec des nombres lamentablement faibles de femmes dans les conseils d'administration. C'est peu de choses. Les conseils d'administration, c'est les grandes sociétés, capital, capitalisme, d'accord. Enfin, sauf que c'est moins de 8%. Et qu'en faisant une loi de parité, s'inspirant d'ailleurs d'un modèle inventé par Monsieur Jospin, dont j'ai publiquement dit qu'il était d'ailleurs courageux de l'avoir fait, même si à l'époque ma famille n'avait pas voté. C'était une manière de renverser un peu la vapeur et de faire qu'un certain nombre de femmes qui ont des expériences professionnelles puissent rentrer par effraction avec le soutien de la loi dans des conseils d'administration qui leur étaient irrémédiablement fermés parce qu'organisés entre les uns et les autres depuis des années sans les têtes nouvelles et notamment sans les femmes. Même ça, il faut le critiquer parce que c'est pas fait par le même bord. Vous savez, il me semble qu'il y a des moments, moi je vous le dis, après tout, l'intérêt de ces rencontres le dimanche, c'est qu'on se dit des choses. Enfin, de toute façon, maintenant, moi je l'ai dit régulièrement, parce que j'en ai assez, y compris vis-à-vis de ma propre famille politique, de devoir être obligé de dire pareil que les autres en permanence. Je rêve qu'on se sorte de tout ça. Madame Fraisse, je suis pas en désaccord avec tout ce que vous avez dit. Mais pourquoi vous avez commencé à dire « J'ai entendu Madame Cantos-Perber et puis après j'ai entendu mon voisin. J'ai un nom, moi aussi. » Et c'est vrai, c'est bête, hein. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi? Elle n'arrive pas à prononcer mon nom. Je suis désolé, hein. Pourquoi je vous dis ça? Mais oui, je me permets de vous le dire. C'est pas grave. C'est juste comme ça. C'est juste parce que je pense que c'est aussi une manière de regarder différemment les responsables politiques. Moi, je pense qu'il y a derrière ça une autre réalité. Nous menons les uns et les autres des combats de conviction, des combats difficiles, sur lesquels, moi, j'entends parfaitement que chacun puisse avoir sa part d'indignation, de combat. Mais je veux simplement dire sur ces sujets, si on pouvait réussir à casser cette espèce de mur qui veut qu'on commence par regarder l'opinion politique de l'autre avant de savoir si on peut rentrer dans le schéma ou pas. Vous avez évoqué le cas de la burqa, le voile intégral. C'est un combat que j'ai mené au début avec un certain nombre de mes amis, mais au début très seul. À ma grande surprise, jamais j'imaginais que sur un sujet comme celui-là, les responsables politiques de tous bords, d'ailleurs y compris de gauche, alors que j'ai paradoxalement pensé que je pourrais avoir vraiment des alliés de tous les côtés, et puis à ce point vouloir rentrer dans un débat d'opposition, alors que pour moi c'était tellement choquant de pouvoir accepter qu'on banalise ce phénomène qui était tellement humiliant pour les femmes, que c'était tellement, ça se voyait tellement de manière évidente que c'était une instrumentalisation par des extrémistes de la religion à des fins politiques et qu'il fallait évidemment mener très vite ce combat. Et je vous ai entendu, j'ai cru comprendre que vous étiez sur ce point à peu près en phase. Peut-être ne l'êtes-vous pas, je ne sais plus. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que moi je rêve que sur ces sujets, puisque le débat c'est de dire, bien sûr la démocratie représentative c'est important, mais bien sûr on veut qu'il y ait d'autres qui y participent, bien sûr... Madame Cantos-Perber a raison, il faut que la société civile s'engage, non pas, c'est une différence entre nous, pour produire des normes, mais en revanche pour contribuer à la fabrication de ces normes, et y compris pour dire non, s'il vous plaît, là on veut pas une loi, on veut juste de la bonne volonté, on veut une main tendue, on veut des initiatives, ça suffira bien. Sur ces sujets, bien sûr qu'on a besoin des uns et des autres. Je voudrais, si vous le permettez, formuler une proposition par rapport à tout ça. Moi je suis très demandeur que ce qu'on appelle communément la société civile, peu importe le terme d'ailleurs, s'engage dans le débat public. Mais à la condition que si elle le fait, elle ne le fasse pas simplement dans cette logique très typiquement française de constat, de diagnostic, qu'elle aille au-delà, qu'elle fasse des propositions. J'entendais tout à l'heure Moussa Kedim l'a dire, et c'est une analyse intéressante qu'il a faite, il se trouve que pour des raisons personnelles, liées à mon mandat de maire de Meaux, je connais bien la question des quartiers difficiles et que en plus, j'ai eu la chance de pouvoir apporter des vraies solutions avec un travail collectif extraordinaire qui a été mis en œuvre dans notre ville. C'est vrai que ces 30 ans, durant lesquels il y a eu beaucoup de petites ou grandes reculades, mais il y a eu aussi des résultats. Et ne pas le dire, c'est quelque part nier qu'il y a aussi beaucoup plus d'espérance qu'on ne le croit. Et je pense qu'en réalité, ce qui manque à notre pays, et c'est juste le mot que je voudrais livrer en conclusion, nous qui avons tant d'atouts, au moins autant que beaucoup d'autres pays occidentaux, c'est d'être positif. Nous ne sommes pas suffisamment positifs. Nous consacrons trop de notre temps à se méfier de l'autre, à le critiquer, à ne pas partir du postulat de départ que chacun est important, que c'est avec l'autre qu'on peut gagner, qu'on peut réussir ensemble pour soi-même, bien sûr, pour ses enfants demain, mais aussi pour son pays, la France. Et vous savez, l'image de notre équipe de foot, là, qui a donné ce spectacle si désolant, c'est un intéressant reflet des difficultés de la société française d'aujourd'hui, de cette incapacité à lier l'individuel et le collectif, de ce rapport si compliqué à l'argent et à la réussite, de ces oppositions qui font que chacun se sent mal à l'aise avec l'autre. Je pense que ça devrait servir, ça aussi, d'enseignement pour la suite. On a beaucoup de leçons à tirer de ça, et beaucoup de choses à construire. Je dis bien à construire. Et moi, je vous le dis ici très simplement, je suis de ceux qui le proposeront toujours, qui le feront avec une idée simple. Quand on a la chance d'être dans le pays dans lequel on est, qui est un pays de liberté, qui est un pays dans lequel chacun est, qu'on le veuille ou non, accompagné, pour lequel on essaye à chaque fois de trouver des réponses aux difficultés qui sont les siennes, on a une responsabilité signalée, qui est d'essayer de construire ensemble. Et je n'en démordrai pas, quelles que soient les difficultés, il faudra continuer de tendre la main. Des jours on gagne, des jours on perd, j'ai pas de doute là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un moment où il faut dépasser nos différences, par le respect, par l'écoute, et essayer de trouver ensemble le chemin que les gens attendent. Car la vérité de tout ça, c'est que nous sommes un peuple très politisé, beaucoup plus que d'autres. Les Français sont infiniment meilleurs en histoire et en politique qu'en économie et en géographie. Profitons donc de cela pour essayer de construire une autre manière de fabriquer le débat public. Et de ce point de vue, des réunions comme celle-là servent à quelque chose si aussi on se le dit tel qu'on le ressent. Et c'est pour ça que je voulais le faire comme ça.
Après Jean-François Copé, Geneviève Fraisse, et pas seulement sur Jean-François Copé.
Non, mais Monsieur Jean-François Copé avait raison, et c'est d'autant plus drôle qu'en général, ce sont les femmes dont on discrédite, oublie le nom, qualifie en se trompant de qualification. Et ce que ça avait pour moi aussi d'autant plus évidemment remarquable, c'est qu'en citant Monique Canto, j'aurais pu dire Monique, car c'est quelqu'un que je connais depuis très 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 longtemps. Donc cette disparité des liens, effectivement, était totalement perceptible. Donc vous aviez entièrement raison. Sur les deux points. Alors le premier, je vais faire le détour. J'étais assez heureuse de voir que dans les réactions là, la question égalité homme-femme, hein, femme-homme d'ailleurs, devrais-je dire aussi, est là, très présente. Et je voudrais juste reprendre, alors, faire deux propositions de futurs débats ou de débats qui sont ceux qui m'intéressent. Sur la question soulevée par Pam Ndiaye, qui a eu la gentillesse de reprendre le mot escamotage que j'ai utilisé et qui je vais continuer à l'utiliser, je crois d'ailleurs, mais je crois que je ne suis pas d'accord, et pas d'accord sur une toute petite chose, quand il dissocie, philosophiquement parlant, le fait que la recherche d'identité et l'énoncé des catégories qui ont subi du tort, il y a un mot qu'il n'a pas prononcé, je crois, et qu'il aurait pu prononcer, et qui appelle dans ce cas de la reconnaissance, tels sont les débats philosophiques d'aujourd'hui, moi, je mets les deux débats dans le même panier, volontairement. C'est-à-dire que, et je l'ai dit dans mon premier point tout à l'heure, quand dire c'est faire, c'est-à-dire que la question de l'universel et du particulier est une contradiction que nous ne pouvons pas résoudre. Nous devons, comme je le propose, habiter la contradiction. Or, dans l'idée des identités, version donc guimauve, puisque le débat sur l'identité me paraît, pour ma part, totalement inintéressant. Mais ça, on n'a pas le temps d'expliquer, pas seulement des identités nationales, des identités, philosophiquement ne m'intéresse pas. Alors, on peut le transformer en catégories désignées par leur tort, puis par la reconnaissance de ces torts. Je ne suis pas du tout persuadée que cela produise du rapport politique. Voilà, c'est donc cette question-là que j'adresse à tout le monde à partir des réflexions de Bab Ndiaye, parce qu'elles me paraissent très importantes aujourd'hui. Pour moi, c'est une impasse, aussi bien le débat sur les identités, et je le dis par rapport à la question sexe-genre, bien entendu, mais pas seulement, de dire c'est une des pistes de l'analyse démocratique qui a été de défaire les identités, donc de déconstruire la norme hétérosexuelle, de dire genre et non pas sexe, de manière à éventuellement imaginer un monde sans catégorie, sans bicatégorie sexuée ou genrée, etc. Tout ça sont des débats en cours, mais qui relèvent de cette double possibilité, de la réflexion sur les identités, ce que j'appelle l'ontologie, et de la réflexion sur les catégories. Pour ma part, Ça produit des effets extrêmement positifs en termes de dérèglement des représentations, mais ça n'a peut-être pas d'avenir politique au sens du rapport politique. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut habiter la contradiction entre l'universel et le particulier, contradiction sur laquelle je bute de toutes les façons, aussi bien théoriquement quand je suis dans mes livres que pratiquement quand j'ai fait mon service politique. C'est-à-dire qu'une fois on dit « mais regardez, là, c'est cette catégorie qui est en jeu », et puis après on a très très envie que cette catégorie soit évidemment reprise dans un ensemble et apparaisse à la fois visible et en même temps mélangée. Voilà. Ce mot « mélange » d'ailleurs est un mot de la philosophie grecque que je privilégie sur beaucoup d'autres. Quand j'ai dû écrire sur la mixité, j'ai appelé ça le mélange des sexes volontairement, parce que je crois qu'il y a une capacité de provocation dans ce mot mélange qu'il faut savoir conserver. C'est donc sur ce premier point, pour moi, c'est un débat théorique extrêmement important et très pratique par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Ça va me permettre de passer, si j'ai encore quelques instants, à la deuxième question qui a à faire avec mon deuxième point, quand faire c'est dire, c'est-à-dire quand j'ai repris de manière partielle, et c'est pour ça que je voudrais m'en expliquer, et en rebondissant sur un propos de Catherine Tasca, je voudrais le développer un tout petit peu plus, puis ça a été repris dans la discussion. Quand faire, c'est dire, pour moi précisément, cher Jean-François Copé, ça veut dire qu'il n'est pas question d'instrumentalisation. Ça veut dire que non seulement ces personnes-là, comme le dit un livre sur le foulard, les femmes voilées parlent, non seulement elles pensent, pour moi ça ne fait pas de doute, non seulement elles choisissent, c'est pas nécessairement d'ailleurs, j'ai assisté à une journée de défense de la gynécologie médicale qui se porte très très mal par les temps qui courent, je le dis comme ça publiquement. Eh bien, l'un des médecins nous expliquait qu'ils peuvent rencontrer effectivement, sous les pores du voile intégral, des femmes blondes, blanches et pas nécessairement bronzées et religieusement impliquée. Donc ça, c'est important, c'est parce que là, ça veut dire il y a un dire qui est donné là. Et tout ce qu'on nous propose, c'est que ce dire, il est soit instrumentalisé par les uns ou par les autres. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on sache que ça fait partie d'un ensemble politique, mais qu'on va buter sur un autre problème que la contradiction universelle particulière. On va buter sur l'autre problème qu'a souligné au passage Catherine Tasca, et qui me paraît important, qui est le rapport entre sujet et objet. Il y a des moments où la question des femmes en particulier, mais d'autres questions aussi, c'est l'objet qui prime sur le sujet. Les femmes sont des objets d'échange, c'est pas nouveau anthropologiquement. Elles sont des objets d'échange politique, c'est pas de l'instrumentalisation, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans la domination, les êtres peuvent être des objets d'échange, c'est-à-dire le lieu d'un échange du politique. Je rappelle à propos de la parité, puisqu'il en était question, autre chose aussi, c'est que, comme vous le savez pour beaucoup ici, les partis politiques préfèrent payer l'absence de femmes que de mettre des femmes. Payer, vous avez bien entendu, c'est-à-dire donner de l'argent plutôt que de donner de la place. Voilà qui pourrait être important dans se comprendre que nous sommes des sujets, nous ne cesserons jamais d'être des objets. Ben oui, mais c'est à partir de là, c'est ma deuxième proposition théorique. Nous ne cesserons jamais d'être des objets d'échange. Et cette question du voile intégral en est un des signes, par exemple. Et je terminerai, ça vous fait rire, mais moi c'est une vieille...
Non, c'est le dessin derrière.
C'est le dessin qui
me fait rire. Mince alors. Merci. Merci, cher Nicolas. Je le remercie beaucoup. Mais tant mieux si ça peut faire rire, parce que c'est tellement vertigineux, l'idée qu'il faut travailler à la fois comme sujet et comme objet, que c'est peut-être ça aussi une place politique, une place de citoyenneté politique, c'est quand même... Et ça me permettra de donner mon accord partiel à ce qu'a dit Monique Cantos-Perber tout à l'heure, sur le fait que nous changeons de cycle. Les lois ont été faites. Ça veut dire qu'une démocratie, c'est pas seulement faire des lois. Les lois ont été faites, y compris jusqu'à l'égalité parentale. Comme vous savez, je tiens à la question de l'espace privé. Les lois ont été faites. Et pourtant, moi, je suis persuadée que le retour en arrière de la question des femmes se fera justement par le service à la personne dont il est si magnifiquement question aujourd'hui. Les backlash se font pas par là où on croit qu'ils vont arriver.
Merci.
Moussa.
Oui, moi je choisirais qu'un seul sujet, celui qui m'intéresse vraiment et par lequel j'ai introduit, c'est celui de la justice sociale. Je crois que véritablement, enfin, moi je partage complètement ce qu'a dit Catherine Tasca sur la régression démocratique, même si ça peut surprendre M. Copé. Quelquefois, M. Copé, il faut peut-être poser des questions aussi, s'il y a ce remontée d'informations. Moi, il me semble que l'identité nationale et tout le discours politique très stigmatisant vis-à-vis d'une partie des concitoyens français, enfin, il était assez emblématique, on n'a jamais entendu ça. Moi, aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est que parmi les périphériques dont je parle, il y a, un peu comme parlait Grace Davis, plutôt sur le sujet religieux, mais elle parlait de plus en plus au sujet de la religiosité dans l'espace contemporain occidental, de croire sans appartenir. On appartient de plus en plus à des religions, mais on va de moins en moins dans des sanctuaires. Alors, il me semble que c'est un peu vrai pour les périphériques également, c'est-à-dire que soit ils appartiennent sans croire, c'est, je caricature le citoyen qui vit justement dans ses us, dans ses quartiers dont on parlait, il appartient à une nation française, mais il n'y croit plus. Et siffler la Marseillaise, pour lui, c'est siffler aussi tout un processus auquel il a cru et dans lequel il n'a pas été pris. Et la deuxième version, c'est de croire sans appartenir, parce que les femmes, elles y croient, les handicapés y croient. Effectivement, ouvrir la boîte de Pandore en disant on fait la parité pour les femmes dans les partis politiques et on se préoccupe du quota des handicapés dans les entreprises, je veux dire, il faut un moment de la cohérence démocratique. On ne peut pas dire à certaines minorités de la société... Voilà, on va se préoccuper de vous donner un peu plus de représentativité et laisser à la porte d'autres contingents. Donc je crois que le vrai problème, c'est celui-là, c'est celui de former une volonté collective avec un peuple qui est de plus en plus multiple et comment la redistribution qui en découle va avec. Merci.
Pap Ndiaye.
La première chose, c'est une réflexion d'historien. Je suis assez prudent et assez critique des propos qui tentent à valider l'idée d'un déclin ou d'une régression démocratique, pardon, dans la mesure où il semble laisser penser que il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, nous aurions été, n'est-ce pas, dans une situation qui aurait été une situation bien plus satisfaisante d'un point de vue démocratique. Et là, évidemment, en tant qu'historien, je lève un sourcil parce qu'il serait relativement aisé de montrer que, y compris dans les périodes où la participation électorale était tout à fait intense et peut-être plus intense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans le dernier demi-siècle, en revanche, évidemment, du point de vue du fonctionnement des institutions démocratiques, du point de vue des questions liées à la représentation, on a beaucoup parlé de la place des femmes, etc., etc., il y a et il y aurait beaucoup à dire. Donc je ne partage peut-être pas tout à fait l'idée qu'il y aurait
une régression démocratique, mais on est, à, comme je le disais en empruntant l'expression à Pierre Rosanvallon, on est dans une histoire, dans un chantier, ce qui suppose des mouvements qui sont non pas des mouvements de pente, vous voyez, continue ou de déclin, mais des mouvements qui sont des mouvements avec des tensions, avec des contradictions, avec des avancées ici et des reculés là. Alors maintenant, il est exact, il est tout à fait important de poser la question, et on en a parlé, plusieurs d'entre nous en ont parlé, de la question de la désaffection électorale. C'est quand même une question tout à fait importante et on ne peut pas la balayer tout à fait. Elle pose, me semble-t-il, un ensemble de questions, j'en relève deux, la question de la représentation, c'est-à-dire le sentiment qu'on est mal ou pas assez bien représenté. Et donc là, il y a tout un ensemble de questions qui t'a posé sur la société politique, sur le sentiment que la société française, dans sa diversité, par exemple, n'est pas assez bien représentée dans le personnel politique, toutes sortes de choses comme ça. La question des femmes est absolument centrale. En dépit de la loi sur la parité, il y a 18% de femmes députées à l'Assemblée nationale. Mais pour répondre à Geneviève Fraisse, à propos de la question des pénalités financières. Je suis de ceux qui estiment que il suffit, en tout cas, une des réponses possibles, c'est d'augmenter très sérieusement le niveau des pénalités jusqu'à ce qu'il soit tellement insupportable pour les formations politiques qu'il... on peut aussi réfléchir de manière assez concrète et que ça... Les partis politiques ne payent pas assez. Voilà. Mais ça suffit pas, mais c'est un des éléments. Absolument. Il faut que ce soit insupportablement coûteux. Voilà. Hein. Donc la question de la représentation, c'est une question tout à fait importante. Et puis l'autre question, c'est la question, me semble-t-il, de la délibération. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la vie politique, la vie démocratique fonctionne en dehors des moments électoraux. Et de ce point de vue-là, il me semble que Internet et d'une manière générale les espaces de débat, pour dire vite les choses, sont des espaces où les mécontentements, où les indignations, et souvent et parfois à juste titre, s'expriment de manière très forte. Mais la délibération, c'est aussi la réflexion en commun pour essayer d'imaginer des propositions ou en tout cas pour essayer de formaliser les désaccords. Et il me semble que dans les débats, on est plus sur Internet, par exemple, dans l'indignation que dans la délibération. De ce point de vue-là, il me semble que la question de l'école et que la question de l'éducation est une question tout à fait importante. Peut-être que ces dernières années, on a un peu mis de côté la question de l'école comme formation à la citoyenneté pour privilégier dans le cadre de demandes économiques qui peuvent se comprendre par ailleurs, l'école comme formation, vous voyez, comme formation à la vie professionnelle. Mais l'école, c'est bien autre chose l'attention que Monique Cantos-Perber portait aux questions d'éducation me semble ici très juste. Et puis, un dernier point très rapide pour parler ou pour rebondir en tout cas sur la question des identités. Mon point portait, je suis très sensible à ce que vous avez dit et je pourrais le nuancer, d'ailleurs je pourrais nuancer sérieusement mon propos, mais en tant qu'historien et surtout qu'historien des États-Unis, je suis aussi très sensible aux difficultés rencontrées par ce qu'on appelle aux États-Unis identity politics, la politique des identités, qui s'est très fortement développée à partir des années 70, fondée notamment sur la reconnaissance des groupes, reconnaissance qui d'ailleurs s'appuie sur des expériences historiques qui sont évidentes et qui est importante pour l'estime de soi, hein, la reconnaissance est essentielle pour l'estime de soi. Et ce sont souvent des groupes où les personnes avaient ou ont des difficultés par rapport à la question de l'estime de soi, donc je ne sous-estime pas cette question. Mais la politique des identités a eu aussi a fait entrer le Parti démocrate, en particulier, dans de graves difficultés qui l'ont conduit d'ailleurs aux déconvenues politiques des années 80. Et donc lorsque je parle, ou je reprends bien volontiers la notion de reconnaissance, qui porterait moins, de mon point de vue, et d'un point de vue strictement politique, sur la question de la reconnaissance des singularités des identités. Je pense que la singularité des identités se fraye son chemin dans une société française qui est une société française qui de facto est multiculturelle, même si on ne le reconnaît pas, pour privilégier, plutôt que la reconnaissance des identités, la reconnaissance des torts associés à ces identités-là.
Et cette question de tort, les torts subis par les femmes, ou la question des vulnérabilités, pour reprendre l'expression de Philippe Petit, me semble être une question plus, disons, politiquement plus fructueuse, dans la mesure où elle est en capacité de rassembler plus largement les personnes, au-delà des identités dont on parlait tout à l'heure. Elle est en mesure de rassembler très largement les citoyens de bonne volonté. Par exemple, sur la question des femmes, la question de la reconnaissance des torts subis par les femmes, de leur vulnérabilité particulière, par la notion de vulnérabilité, on veut dire que les femmes sont en mesure ou en susceptible d'avoir des expériences discriminatoires, sexistes, parfois très violentes, ce qui ne signifie pas que toutes les femmes aient les mêmes expériences, mais aucune femme ne peut jurer qu'elle n'aura pas ce type d'expérience dans le restant de sa vie. Donc il y a bien une vulnérabilité particulière des femmes, et on pourrait multiplier les exemples de ce côté-là. Ce type de démarche de reconnaissance des torts est susceptible de reconnaître, enfin, de mobiliser particulièrement les femmes, en l'occurrence. Elles ont bien, elles, un intérêt particulier, de même que les homosexuels, si on devait prendre cet exemple, ont bien un intérêt personnel et particulier à ce que l'homophobie recule et soit effectivement combattue en France. Mais au-delà des groupes en question, ce sont des questions qui peuvent mobiliser fortement les hommes, par exemple, dans le cas des femmes, ou les non-homosexuels, sur la base de cette reconnaissance des torts, plutôt que de la singularité de l'identité. C'est pour ça que je soulignais le caractère plus fructueux de la reconnaissance des torts, tout en étant également sensible à l'importance des identités, mais qui me semble poser, tout en posant des problèmes dans la société civile et politique française, qui me semble être, d'une manière générale, politiquement moins fructueux dans le cadre républicain, si on devait le dire aussi rapidement. Voilà. Voilà les deux points sur lesquels je voulais rebondir. Donc merci pour ces points.
Merci, Pape Ndiaye. Je passe maintenant la parole à Catherine Tasca. Ses réflexions là, sur les deux points. Avant de dire quelques mots de conclusion.
Avant de dire les deux points qui m'ont le plus accroché, je voudrais m'adresser à Jean-François Copé pour lui dire que je regrette vraiment qu'il se soit senti agressé par une partie de mon propos. Je peux témoigner que pendant ces 3 jours, à aucun moment, la confrontation, je dirais, stérile et automatique droite-gauche n'a été présente dans nos débats, à aucun moment. Je pense que, quelles que soient nos convictions aux uns et aux autres, nous avons toujours mis en commun nos réflexions sur le devenir de la démocratie. Et si j'ai pris l'exemple des autorités indépendantes, à propos desquelles j'ai parlé de régression démocratique, c'est parce que je crois que c'est un vrai sujet pour l'évolution de la démocratie. D'ailleurs, Pierre Rosanvallon en avait fait un développement tout à fait intéressant. Donc, il n'y a là aucun sectarisme, mais, disons, le souci de poser une vraie question par rapport à notre fonctionnement. Alors, les deux points qui m'ont le plus motivé dans ce que j'ai entendu, c'est tout d'abord ce qu'a dit Moussa sur les minorités, qui vient d'être repris aussi un petit peu, parce que je pense que c'est une question centrale dans le devenir de notre société, et une question que aucune majorité n'a bien traitée, et ni en tout cas résolue. Le constat est affligeant sur ces minorités qui deviennent invisibles ou trop visibles à force d'être marginalisées. J'ai beaucoup aimé le terme de périphérie. Je pense qu'il est très juste. J'ajoute d'ailleurs que on peut rattacher ça au constat d'un urbanisme tout à fait désastreux, qui est celui des années 70, qui a en effet organisé les périphéries de nos grandes villes et qui a mis en place des sortes de ghettos contre lesquels on essaie aujourd'hui de ramer, mais avec beaucoup de difficultés. Donc je pense, moi, que cette question de la place des minorités, qu'il s'agisse des femmes ou des minorités d'origine étrangère, est au centre du débat démocratique en ce début de 21e siècle. Il n'y a pas de solution évidente, d'autant que ce vivre ensemble se heurte à notre tradition, à notre conception de la République unitaire et aussi à notre conception de la laïcité. Donc c'est un chantier d'une très grande difficulté, mais je pense que nous n'y couperons pas. Il faut en particulier développer les tentatives, les expériences. On a évoqué tout à l'heure les lycées, l'expérience aussi de Sciences Po. Ce sont des expériences très ponctuelles, très marginales, mais il faut creuser ce sillon parce que nous n'échapperons pas, encore une fois, à ce débat de fond auquel il faut apporter des réponses. La deuxième question qui m'a interpellée, parce que je n'avais jamais entendu énoncer comme ça, c'est ce qu'a dit Geneviève Fraisse sur la contradiction entre service et démocratie. Alors, bon, on n'a sans doute pas le temps aujourd'hui de beaucoup creuser ça. J'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que aujourd'hui, on voit se développer toute une économie des services à domicile qui correspondent à des vrais besoins. On sait bien qu'il y a toute une série de tâches qui ne sont plus assumées par les familles, par l'environnement immédiat. Donc, il y a une pente très forte aujourd'hui à développer le service. C'est à la fois un espoir de création de nouveaux métiers, d'emploi en particulier pour les femmes, mais pas seulement pour les femmes. On peut être infirmier aussi bien qu'infirmière. C'est donc une perspective sur laquelle il faut réfléchir et je ne sais pas s'il y a vraiment contradiction entre le service et la démocratie, mais en tout cas, ça rejoint la question de la justice sociale qui a été posée par plusieurs d'entre nous à cette table et je crois qu'il faudra se donner les moyens de creuser cette question.
Un mot.
Mais je voudrais, pardon, parce que j'ai compris que ce n'était pas la règle du jeu, monsieur Michaud. Je voulais juste dire un mot de réponse à Catherine. Je voudrais qu'on soit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cette histoire.
Attendez. Non. Laissez, c'est moi qui dirige les débats, hein, jusqu'à nouvel ordre.
Mais...
Et donc, je donne la parole à Jean-François Copé.
Ça va...
Pour
ça va bien
une
se
réponse
passer,
raisonnable. Hein. Voilà.
Ça va bien,
et après,
ça
je
va...
conclurai.
Surtout, détendez-vous, ça va très bien se passer.
Ça va très bien se passer.
Juste d'un mot. Sur cette histoire de régression démocratique, qu'est-ce qui est en jeu? C'est la question, puisque c'est le sujet que vous avez cité, c'est la question de savoir si le défenseur des enfants doit ou non être intégré dans la structure globale que nous voulons créer de défense des droits des citoyens. Doit-il rester à l'extérieur ou doit-il être à l'intérieur de cette structure? Bon. Je peux tout à fait comprendre qu'on ait un débat de principe pour savoir si on sépare la défense des enfants des autres causes que nous devons organiser. Mais je ne peux pas suivre sur l'idée que c'est une régression du point de vue démocratique, surtout si on le remet en perspective de toutes les avancées. Je voudrais remercier M. Ndiaye de ce qu'il a dit, parce qu'il faut quand même voir que derrière ça, de gauche comme de droite, si nous remettons en perspective historique, nous sommes tous à essayer de trouver des éléments d'équilibre supplémentaires. Et enfin, je voudrais, et c'est juste mon dernier mot là-dessus, inviter à une réflexion sur ces fameuses autorités administratives indépendantes. Donc je voudrais dire qu'à titre personnel, plus je mûris, plus j'ai des doutes sur ce que cela veut dire. La notion d'indépendance, en réalité, c'est tout et rien. Le vrai sujet n'est pas de savoir si on est indépendant, et d'abord indépendant de quoi? Surtout que l'essentiel de ces structures sont des structures nommées par des politiques.
Je vais vous arrêter avec courtoisie parce que, d'abord, c'est pas la règle du jeu. Et puis surtout, je veux dire, la manière dont ça a été discuté le premier jour dans l'intervention de Pierre-Rosan Vallon était, je dirais, un niveau à la fois théorique et concret, si vous voulez, très intéressant.
Ça
serait pas la peine de recommencer le débat en n'ayant pas les éléments. Ce que je voudrais dire, d'ailleurs, ça vous fera plaisir, c'est que pour ma part, par exemple, sur cette question des défenseurs des droits, je pense que pour des raisons, pour ma part, hein, c'est à titre personnel, pour des raisons de rationalité bureaucratique, je pense qu'une autorité unique, bien organisée, serait une bonne chose. Mais c'est un point de vue personnel et ça n'a rien à voir avec ma conclusion. Je vais donc conclure en vous disant que d'abord, je n'aurai pas le dernier, j'aurai bien sûr de facto le dernier mot, mais c'est pas le principe de nos rencontres, ni le principe de l'Université de tous les savoirs, d'avoir le dernier mot. Le dernier mot, c'est toujours celui qui parle en dernier. Il y aura d'autres conférences, il y aura d'autres débats, et je pense que les réflexions doivent se poursuivre dans la tête de ceux qui sont présents, doivent se poursuivre dans nos esprits à nous, et elles doivent aussi se poursuivre sur Internet, puisque, encore une fois, nos réunions, rencontres et débats sont très largement diffusées et très largement suivies. Donc ça, c'est un second point. Deuxième point que je veux dire, c'est que une des choses dont je suis particulièrement fier, alors qu'en France, justement, c'est quelque chose qui ne se dit pas facilement, c'est que l'Université de tous les savoirs n'a jusqu'ici pu être caractérisée ni comme de gauche ni comme de droite, et que elle a reçu le soutien de toutes les majorités successives qui se sont succédées. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai rencontré Madame Pécresse à propos de la poursuite du financement, et elle m'a dit très clairement à quel point elle tenait à ce que nous puissions continuer nos activités. Donc je veux dire, de ce côté-là, nous sommes un forum de réflexion, en demandant aux gens de compétents et de bonne volonté de présenter leurs idées du point de vue où ils sont. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui, ce matin, et comme c'est ce qui s'est passé dans les jours précédents, et c'est ça la force de l'Université de tous les savoirs. À titre anecdotique, je dirais une chose pour M. Copé comme pour Mme Tasca, mais il faut dire que Mme Tasca, elle était là hier, M. Copé non, mais je ne vous le reproche pas, mais je pense que ceux qui auront bien compris les positions de Manuel Castells dans son livre « Communication Power » auront de très fortes chances de gagner les élections de 2012. Je l'indique, de ce côté-là, c'est notre fonctionnement comme think tank. Il y a eu une intervention extrêmement intéressante hier de Manuel Castells, grand spécialiste de la communication aux États-Unis, beaucoup moins reconnu en France. Et vraiment, il y avait de quoi apprendre pour les politiques, et de manière très pratique. Alors, pour ce qui est des débats de ce matin, encore une fois, je ne veux pas les conclure, mais je dirais simplement qu'une phrase de Moussa Kedimela m'a frappé, c'est « Comment produire de la volonté collective dans un peuple qui est de plus en plus multiple ?» Ça a été bien évidemment le leitmotiv de ces trois jours de rencontres. Et un thème qui est apparu ce matin, qui n'avait pas été abordé de frontalement pendant le débat, ça a été l'importance des questions de culture et bien évidemment des questions d'éducation. De ce côté-là, je veux dire, c'est pas un thème que nous avons abordé frontalement, tout simplement parce que c'est ce que nous faisons, nous, modestement à l'Université de tous les savoirs, y compris à travers les conférences que nous organisons, très nombreuses, dans les lycées, pour contribuer justement à la formation du citoyen, à son éducation, et pour qu'il puisse ensuite effectivement réfléchir par lui-même et prendre lui-même ses responsabilités et ses décisions. Il est apparu aussi